Nous sommes mardi le 3 novembre 2020. Vous écoutez En Zone Neutre. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous connecter, de partager le live. Gênez-vous pas. On est live, ça sera pas long, je vais apparaître à l'écran, ça sera pas très long, et voilà, me voici, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. On est le 3 novembre, c'est la fête à mon papa ce soir, ben pas ce soir, c'est la fête à mon papa toute la journée. Je tiens à lui souhaiter bonne fête, je suis persuadé qu'il n'écoute pas le podcast. Par contre, si vous connaissez mon père, passez-lui le message, bonne fête papa. 69 ans mon père, vraiment un homme qui m'a montré beaucoup de choses dans la vie. Donc voilà, c'est dit, bonne fête papa. 3 novembre, on a eu la première neige aujourd'hui, pas mal. J'ai fait un live ce midi avec un ami d'enfance qui habite en France présentement, qui a lancé son propre escape game. Jeu d'évasion. Jonathan Corrigan, c'était vraiment intéressant de l'entendre nous parler un petit peu comment il est parti. C'était pas un plan là, mais que c'est devenu son plan à lui. Donc vraiment cool de jaser avec lui ce midi. C'est les élections américaines ce soir un peu partout. Je sais, il y en a qui suivent ça. Prenez un break. Vous saurez pas qui va être élu avant aux petites heures du matin. Prenez une pause de ça. Venez nous écouter. Partagez le live. Envoyez-nous des questions. Super important. Moi, je suis pas un intervieweur dans la vie, je suis un humoriste amateur, je fais mon petit podcast, j'aime ça, je reçois du monde vraiment intéressant sur le show. Par contre, j'ai besoin de votre participation, je veux entendre vos commentaires. Ce soir, on reçoit du monde super intéressant, dont une médaillée olympique, Annie Pelletier. Gênez-vous pas, racontez-moi dans le chat, sur Facebook ou sur YouTube, tu sais, comment vous connaissez Annie, comment vous avez vécu ça quand elle a eu sa médaille olympique, qu'est-ce que vous aimez d'elle, tout ça, des commentaires, elle va pouvoir les voir, je vais les mettre à l'écran aussi. Gênez-vous pas, on va recevoir aussi dans la deuxième partie du show la formation folklorique de la Petite Nation en Outaouais, le Diable à 5 qui ont été récipiendaires du prix ou de la bourse, première nomination au Gala de la Disque dans la semaine dernière. Donc, super intéressant, j'ai hâte de leur jaser. C'est des amis, des connaissances que je côtoie à l'occasion. C'est du monde vraiment le fun, vraiment. Fait que je suis vraiment content que ça leur arrive, tu sais. Donc, gênez-vous pas aussi des commentaires pour le Diable à 5. Je vais recevoir aussi Vincent Ouellet des Trois Maison qui a écrit un livre sur ce qui s'est passé, les fermetures de guichets dans les milieux ruraux de Desjardins, tout ça. Fait que ça va être super intéressant de lui jaser un petit peu plus tard. Et je vais recevoir deux humoristes aussi, des amis, Dolino et Lucas Boucher, qui vont venir nous jaser un petit peu de leur expérience, comment ils vivent ça en ce moment, le confinement, l'arrêt des spectacles, comment ils se sont réinventés au cours de l'été un peu. Fait que ça va être super intéressant de les entendre. Dolino, d'ailleurs, qui a fait le prochain stand-up sur les ondes de nouveau. Donc, va pas nous nous parler de son expérience lui aussi sur ça. Donc, comme à toutes les semaines, je suis allé me chercher une petite bière pour la soirée qu'on va passer ensemble. Et puis, je vais toujours au Brasse Camarade à Saint-André-Avelin, qui est une épicerie spécialisée dans la bière et bon, les trucs de d'épicurien, on va dire ça comme ça. Mais moi, j'avais une demande spéciale depuis quelques semaines, puis il n'y en avait pas. Mais là, aujourd'hui, je suis allé, puis ils en ont reçu. C'est la fameuse bière de la poche bleue des amis Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Donc, j'y ai goûté pour la première fois et c'est excellent. C'est une super bonne bière brassée au Québec. C'est un produit 100% québécois. Les ingrédients sont 100% québécois. Donc, je trouvais ça le fun de leur faire un petit clin d'œil. J'ai reçu Guillaume sur le podcast, puis je compte bien peut-être le recevoir à nouveau. Donc, on fait un petit peu de promo pour leurs produits qui sont 100% québécois. Donc, j'en prends une gorgée avec vous autres. Ouvrez-vous une petite bière, une petite bouteille de vin, n'importe quoi, puis on va avoir du fun pour la prochaine heure et demie à peu près. Voilà. Donc, sans plus tarder, je sais qu'il y en a qui ont vraiment hâte que je puisse jaser avec ma première invitée, qui est une athlète professionnelle. Je vais commencer par vous montrer un petit vidéo bien cool. Je pense que ça va faire plaisir aussi à mon invité de voir ça. Donnez-moi un petit instant. Je vais partager mon écran. Je vais montrer une petite vidéo, puis ensuite de ça, je vais accueillir mon invité. Donc, voilà, je partage avec le son. Mom and Dad, Louise and Guy, the brother Alain, Martin Bellevaux, her boyfriend, all looking on as Annie gets set for her final dive. She is certainly within striking distance of bronze. She needs a great dive here. Back 1.5, 2.5 twist. She is capable of doing it extremely well. She needs to stand straight up on it and be tight on the entry. And that was a beautiful dive. She didn't disappear as a matter of hope. C'est le fun d'entendre les commentaires du commentateur. Je vous présente, j'enlève ça de l'écran, mais je vous présente Annie Pelletier. Bonsoir Annie, comment ça va?
Bonsoir Simon, ben ça va bien. Tu me replonges sans faire de jumeaux dans des souvenirs qui datent de 24 ans déjà.
Ben oui, on dirait que c'était hier par contre. On dirait que c'est figé dans le temps ce moment-là. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là? J'imagine que tu les as revues, là, puis revues encore à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que ça te fait de revoir ça?
Ben ça fait que je m'ennuie de. Ben en fait, je m'ennuie pas de retourner dans mon speedo, mais je m'ennuie de mon corps que j'avais dans le speedo. Je vois il y a quand même 25 ans qui ont passé depuis. Mais non, blague à part. Ben c'est un bel accomplissement, mais tu sais, faut pas s'accrocher au passé trop. Donc oui, c'était super dans le temps, j'ai réussi à faire ça. C'était le rêve de ma courte vie à l'époque. Hein. Je rêvais de Jeux olympiques depuis que j'avais 5-6 ans, puis ça, j'ai réalisé ce rêve-là 22 ans. Mais après, il s'est passé tellement de choses, tellement de péripéties, tellement d'aventures que non, c'était bien. C'était un beau tremplin vers la suite. Je suis bonne dans les jeux de mots, hein.
T'es excellente dans les jeux de mots, j'adore ça. Mais ça part pas de là. Ça, c'était aux Jeux olympiques d'Atlanta où est-ce que tu as remporté la médaille de bronze au tremplin de 3 mètres. Par contre, quand on recule un petit peu dans ton enfance, on se rend compte que ça date pas d'hier là, que tu avais ce rêve de faire les Jeux olympiques. Parle-nous un peu de ça. Je pense que tu l'as déjà raconté à plusieurs reprises, mais pour le bonheur des gens qui écoutent, je pense que ton idole de jeunesse était Nadia Comaneci, et puis tu faisais de la gymnastique avant de faire de la natation et du plongeon.
Tout à fait. Ça a été ma première passion. Ça a été la gymnastique artistique. J'ai commencé à Gymnacentre. Après ça, je me suis déplacée à Gymnix, qui était le plus gros club au Québec, dont j'étais très, très fière de faire partie. Donc, j'ai fait de la gymnastique de 8 à 13 ans. Et ensuite, j'ai bifurqué vers le plongeon. Donc, mon idole, Nadia Comaneci, qui avait un lait hauteur à manches longues, eh bien, mon idole s'est transformée davantage en Sylvie Bernier, avec vraiment plus un maillot de bain. Alors, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert le plongeon. Puis tout de suite, dans mon j'avais comme un cahier, comment qu'on disait, donc un journal intime hein, à l'adolescence. Et j'avais déjà écrit dans ce journal-là, le 8 juin 87, que si le bon Dieu m'avait donné le talent, que j'allais tout faire pour réaliser mon rêve de monter un jour sur un podium olympique. Fait que je ne sais pas si c'était de la prétention, je ne sais pas si c'était de la visualisation, Mais je pense que c'est vraiment mon cœur de jeune fille là, tu sais, qui parlait. Je rêvais de ça depuis que j'étais toute petite. Là, les anneaux olympiques, là, ça me... quand je voyais les anneaux olympiques, là, ça me donnait des frissons, ça m'inspirait, ça me rendait vraiment fébrile, motivée. Puis, ben, j'ai finalement réussi à réaliser ce rêve-là, là, 9 ans plus tard, après avoir débuté mon premier cours de plongeon.
Est-ce qu'en gymnastique, tu faisais aussi de la compétition? Est-ce que c'était, mettons, si tu recules dans le temps, est-ce que tu avais un talent là, pour peut-être aller aux Jeux olympiques
oui,
aussi
oui.
En gymnastique?
Non. J'avais un talent pour un niveau provincial, mais c'est à peu près tout. J'étais comme, non, je n'avais pas autant de talent en gymnastique qu'en plongeon, mais je pense que... Par contre, j'avais autant de passion, sinon plus, en gymnastique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, à 46 ans, je regarde encore des vidéos de gymnastique. Je regarde encore des images, des athlètes qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais jeune. Donc, des Russes, Oksana Omelianchik, Elena Shishunova, Mary Lou Retton aux Jeux olympiques de 84, Ekaterina Szabo, Daniela Silivach. Alors, c'est tous des athlètes qui m'ont beaucoup marqué. Puis encore, Nadia Comaneci, Olga Korbut, j'adore regarder sur YouTube le vendredi soir, là, tu sais, quand je m'ennuie, je m'en vais dans mon lit, puis là, je regarde des vidéos qui m'ont toujours fascinée, qui m'ont toujours marquée, puis là, je peux les voir ad nauseam, tu sais, parce que tout est accessible. Alors, alors que je ne vais pas regarder de vidéos de plongeon, là, on s'entend, là. Si j'en vois, je les aime, tout ça, mais ce n'est pas des recherches que je vais faire du tout. Ma première passion, c'était la gymnastique, puis j'y reviens toujours.
Ah, c'est cool, ça. C'est quand une passion nous habite, c'est comme ça. Là. C'est, t'as fait du plongeon, effectivement. C'est quoi tes accomplissements par rapport, autre que les Jeux olympiques en plongeon, parce que t'as fait plusieurs compétitions, là, t'as pas juste une médaille olympique derrière la cravate, t'as autre chose aussi, là?
Mais quand, en 94, 2 ans avant les Jeux olympiques, j'avais remporté la première médaille de l'histoire du Canada au championnat du monde aquatique. Donc, c'était une médaille de bronze, c'était au 1 mètre. Et cette même année-là, en fait, quelques semaines plus tôt, j'avais remporté 2 médailles d'or aux Jeux du Commonwealth qui avaient lieu à Victoria. Puis je me rappelle que c'est pas mal à ce moment-là que j'avais commencé à être connue, que j'avais commencé à faire mon nom sur la scène national et international, vu que les Jeux du Commonwealth avaient lieu au Canada, il y avait eu beaucoup de couverture médiatique. Et si je me rappelle bien, il y avait même, je pense, une grève dans le monde du baseball. Ça se peut-tu? Toi, tu peut-être que tu te rappelles plus de ça.
Oh, ouais.
Mais donc, on avait beaucoup de couverture. On avait beaucoup de médias qui étaient présents.
Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. C'est l'année où est-ce que, apparemment, les Expos allaient remporter la Série mondiale, d'ailleurs, au baseball. Et puis, il y a eu une grève dans le baseball majeur qui a fait qu'ils ont perdu leur chance, si on veut. Puis, c'était la plus belle équipe, apparemment, qu'il y avait à Montréal dans le temps, en 94. Donc, mais effectivement, quand il y a des litiges comme ça, même chose avec les lockouts qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey, ça a donné de l'exposure à des sports amateurs, vraiment. Puis, c'est bon aussi, là, tu sais, c'est un bon côté, là.
Ben oui, c'est sûr que c'est un bon côté pour nous, les athlètes d'élite, là, tu sais, parce que ben ça fait connaître notre sport, ça le vulgarise, ben puis ça permet de transmettre cette passion-là à des plus jeunes. Tu sais, moi j'ai commencé à faire de la gymnastique grâce à Nadia, puis j'ai déjà entendu des plongeuses qui ont dit qu'ils avaient commencé à faire du plongeon suite au fait que j'avais fait les Jeux en 96, puis elles avaient comme 8-9 ans, puis elles m'avaient vue. Donc tu sais, ça c'est... Tu sais, ça va au-delà de la médaille. C'est bien beau avoir une médaille, d'avoir les honneurs qui viennent avec. J'ai même une piscine qui porte mon nom. Ça, je suis vraiment, vraiment touchée de ça. Mais qu'est-ce qui me touche encore plus, c'est de savoir que j'ai peut-être influencé ou que j'ai eu une petite part dans la vie de quelqu'un, d'une petite fille qui a commencé à faire du plongeon. Puis pour ne pas la nommer, je pense à Rosine Fillon à chaque fois. Je suis toujours touchée quand je parle d'elle parce qu'elle a commencé à plonger après m'avoir vue. Puis elle a réalisé, elle aussi, son rêve olympique. En remportant une médaille de bronze, la même date que moi, le 31 juillet, mais beaucoup plus tard. Okay. Sa première médaille, je pense que c'était en 2012, si je me rappelle bien. Puis c'est moi qui l'ai décrit, c'est moi qui ai analysé sa performance. Alors, c'est quoi les chances que, tu sais, avoir ça à 22 ans, je pense que je me serais mis beaucoup plus de pression sur les épaules si j'avais su que j'allais avoir un rôle, tu sais, d'influenceuse quasiment, là, tu sais, à l'époque, là, en 96, sur la vie de jeunes enfants.
C'est influenceuse par l'exemple. Là. C'est vraiment la meilleure influence que tu peux avoir. Je rappelle aux gens, s'ils veulent commenter, nous envoyer des questions, on a Jean-Simon Malépart qui nous envoie un bonjour. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. On va pouvoir les mettre à l'écran un peu comme ça. C'est moi qui gère tout ça. Dirais-tu, Annie, que bon, cette influence-là t'a envoyé vers le poste que tu occupes aujourd'hui, qui est directrice des communications et partenariats avec la Fondation la Fondation d'athlètes d'excellence du Québec.
Ah, tu l'as bien dit, c'est bon. Ben, okay. Ça fait 15 ans. Oui, ça fait 15 ans que je fais ça, que je travaille à la Fondation. Je suis aux communications partenariat, deux qui m'intéressent, qui me passionnent depuis toujours. C'est quoi ta question? C'est si ça m'avait.
Le fait sport, que tu influences ces jeunes-là, tout ça, puis les voir réussir, puis vouloir les voir réussir encore plus, si ça t'a mené à ce poste-là, autrement.
Ben tout à fait, oui. Mais c'est ma passion aussi pour l'être humain. J'ai une grande passion pour l'être humain. J'adore les enfants aussi. J'adore les jeunes. Tu sais, je trouve que quand on peut avoir ce pouvoir-là d'influencer ou de soutenir, je pense que c'est un privilège. Nous, à la Fondation de l'athlète d'excellence, c'est ça qu'on fait. Hein? On appuie et on soutient des jeunes étudiants athlètes dans leur parcours académique et sportif. Et on essaie d'en faire des leaders, parce que c'est nos leaders de demain. Là. Les jeunes de 10, 11, 12, 14 ans, 20 ans, c'est nos futurs employés, futurs employeurs, futurs patrons, futurs décideurs. Donc, c'est un travail très valorisant, très enrichissant, je pense, pour les personnes qui le font, mais aussi pour une société tout entière. Là. On espère faire une petite différence positive, en tout cas, dans ce cheminement-là.
D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est parlé pour une entrevue parce que Félix Bertrand que j'ai reçu il y a trois semaines sur le show, Félix Bertrand qui est un athlète de la région ici où est-ce que j'habite à Saint-André-Avelin qui est phénoménal. Félix est incroyable, il fait du ski de bosse et puis je pense qu'il est soutenu ou qu'il est bien suivi par la fédération et tout là. Donc je trouvais ça la fondation. Et puis, je pense que vous êtes présent un peu partout parce que d'ailleurs, si je comprends bien, le commentaire que tu avais fait à ce moment-là, c'était que vous aviez fait le 808 Bonneville, je crois, à Mont-Tremblant. Là, vous avez fait beaucoup de vélo, 404 kilomètres de vélo pour justement la fondation. C'était pour la fondation de d'Annie Bonneville, c'est ça?
Non, je vais tout t'expliquer ça.
Alors,
le défi 808 Bonneville, c'est un événement, c'est la 4e édition cette année. C'est Danny Bonneville, des Industries Bonneville, qui est aussi un ultra-cycliste qui a amené ça au Québec. Et il a cogné à la porte de la Fondation de l'athlète d'excellence pour nous remettre les fonds parce qu'il voulait remettre des fonds à une bonne cause, à un organisme sérieux. Il nous a rencontrés, il est tombé en amour avec nos étudiants athlètes, nos boursiers. Puis, donc, là, ça fait 4 ans. L'événement est au profit de la Fondation de l'athlète d'excellence. Okay. Et voilà, on a amassé 500 000 $. C'est un événement cycliste qui avait lieu les 18 et 19 septembre dernier. C'était à Tremblant. Et les gens pouvaient choisir un défi à la hauteur de leurs ambitions ou de leur forme physique. Là, c'est selon. Là. Il y en a des fois qui mettent la barre haute. Comme Félix, lui, il a fait 404. Mais ouais, moi, j'ai juste fait 100.
C'est quand même
beaucoup. Fait un 202 en équipe de deux. Fait que j'ai fait le premier 100 km. Mais je pense que j'aurais pu en faire un peu plus. Je pense que j'aurais pu me pousser pour faire le 125. Mais bon, cette année, ça a été simple. J'étais fière de moi, honnêtement. Voilà. Alors, c'est un bel événement qui a lieu à tous les ans, depuis 4 ans. Puis, qui amasse des fonds pour la Fondation. C'est un de nos événements de levée de fonds.
C'est une belle cause. Si je me trompe pas, Danny Bonneville fait quasiment quoi? Il fait les 800, c'est 808
oui,
kilomètres?
Oui, c'est ça. Danny, il a fait 808 kilomètres. Il faut le faire en dedans de 48 heures. Lui, il l'a fait en 35 heures, 16 minutes, si je me rappelle bien. Alors, c'est ça, 35 heures, 16 minutes. Oui, c'est. J'espère que je ne le fais pas pédaler une heure de plus, là.
Mais c'est 34 ou 35 heures. Pour qu'il le confirme.
Oui, c'est ça. Puis donc il a fait ça, puis il a fait une super levée de fonds. Danny, c'est vraiment un gars intense là, tu sais, il a tordu le bras là de tout son réseau, ses partenaires, ses fournisseurs, ses amis, sa famille, ses neveux, ses nièces, tout le monde. Tout le monde a été sollicité puis il a amassé 70 000 $ pour la fondation. C'est un administrateur aussi de la fondation depuis 2 ans déjà. Donc un entrepreneur entrepreneur québécois engagé, puis il a vraiment à cœur là, tu sais, le bien-être des jeunes étudiants athlètes au Québec, là, puis il voit, tu sais, nous là, on reçoit l'argent là, tu sais, de nos partenaires, puis on le remet tout de suite, on garde toujours les frais d'administration au minimum, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu sais, des fois tu peux amasser des fonds pour une certaine cause, puis tu vois pas toujours l'argent où elle va, mais nous les tu sais, cette année on va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à un petit peu plus que 500 étudiants athlètes de partout au Québec. Alors, c'est des bourses qui varient entre 2000 et 4000 $. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on fait, nous autres, à la Fondation. C'est ça, notre mission.
C'est super. Ces bourses-là, dans le fond, c'est pour leur permettre de pouvoir continuer à étudier, s'entraîner, sans, par exemple, travailler, puis avoir des horaires de fou, puis de l'épuisement, puis tout ça, là.
Exactement, puis payer aussi les loyers, puis tous les frais inhérents là, à la pratique d'un sport d'élite. Évidemment, pour la plupart, ils ont quand même un soutien, ils ont quand même un brevet, mais c'est pas le cas de tous, surtout des plus jeunes hein, qui arrivent là à peine sur l'équipe nationale junior ou senior. Ils ont besoin de soutien, puis à la Fondation, on remet pas juste un chèque. On a, depuis quelques années, là, on a des services d'accompagnement. On a une super conseillère en orientation qui s'appelle Sophie Brassard, qui est une ancienne athlète, une ancienne gymnaste aussi, qui est en train de terminer son doctorat. Et elle offre vraiment là les services d'accompagnement, donc tout ce qui est transition de carrière, tout ce qui est soutien psychologique aussi, elle va pouvoir, avec son réseau, référer nos étudiants athlètes aux bonnes personnes. Elle va pouvoir offrir des stages aussi en entreprise, leur apprendre à faire un CV, etc., etc. Donc, les services d'accompagnement, là, vraiment gagnent en popularité. Le besoin est là, et particulièrement dans une année comme cette année, une année de pandémie, les étudiants athlètes perdent leurs repères. Puis qui dit perdre leurs repères, on dit ils perdent leur zone de confort. Et qui dit perdre leur zone de confort, ben l'anxiété augmente. Alors elle est là pour eux avec des collaborateurs évidemment. Donc c'est ça. À la Fondation, on remet de l'argent, on remet des sous, on remet des bourses, mais aussi on s'occupe de tu sais, dès l'émergence du talent de l'athlète jusqu'à la transition de carrière vers le marché du travail.
C'est vraiment c'est super intéressant. J'ai plein de questions. J'avais préparé plein de trucs, mais on va enchaîner quelques questions.
Questions en rafale. Sauf la question qui tue, là. Ça, là, je l'avais
pas. Non, c'est assez... Le monde trouve ça le fun que tu sois là. J'ai mon frère, Jean-François Lavergne, qui dit « Annie, fais-tu encore des plongeons juste pour le fun? »
C'est rare, là. Plus je vieillis, là, tu sais, quand je vais dans un party, là, puis qu'on me demande de faire une bombe, là, tu sais, je la fais, là, pour faire rire le monde, mais non, plus sérieusement, tu sais, jusqu'aux Jeux Olympiques, jusqu'avant de tomber enceinte, à tous les Jeux Olympiques, là, tu sais, à partir de 96. Donc, en 2000, 2004, 2008, 2012, je suis allée à la piscine avec l'équipe olympique, donc du moment, et j'allais faire une journée d'entraînement avec eux. Souvent, là, la veille ou l'avant-veille, qui prennent leur départ là, pour partir pour leurs Jeux olympiques. Donc, j'ai fait ça. Et à chaque fois, j'étais comme courbaturée pendant plusieurs semaines. Puis je me disais, oh my God, je pourrais jamais faire un retour. Puis comment ça que j'ai plus d'épaule? Puis comment ça que je suis plus aussi flexible? Puis j'ai plus d'orientation spatiale, vraiment. Là. Ça reviendrait, par exemple, je le sens après, comme une heure de plongeon, juste l'odeur du chlore, là, ça me rappelle comment j'ai été passionnée quand même de mon sport, comment j'ai aimé ça. Puis c'est comme un amoureux, là, tu sais, c'est comme un chum que tu as bien, bien gros aimé. Là. Tu sais, quand tu revois une photo, une vidéo, là, tu sais, ça fait du bien, ça. Mais il ne faut pas que tu regardes trop longtemps parce que sinon, ça peut te mettre dans un état de nostalgie, puis là, peut-être avoir des regrets, puis tomber dans un petit. Je sais pas, un petit, comment on dit ça, donc, un petit feeling blues, un peu maussade, là. Un petit blues. Merci, ouais. Mm-hmm. Fait que, non, le plongeon, j'aime ça, puis, mais je garde ça loin.
Mais le lien avec l'humour, c'est quand même pas si mal parce que c'est ce que les anciens humoristes qui ont pas monté sur scène depuis super longtemps disent aussi, tu sais.
C'est vrai?
Ils vont pas voir de show parce que ça leur donne le goût de monter sur scène, puis ils seraient pas à l'aise de le faire à ce moment-là. Fait que il y a un lien à faire. Je t'amène une autre question de Gervais Néron qui dit « À quel moment, Annie, tu as peut-être pensé abandonner ou que tu as trouvé la période de ta carrière la plus difficile dans le plongeon et pour quelle raison? »
Ah, ben ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'à un certain moment, j'avais un entraîneur avec qui ma relation était plus difficile. On ne va pas nommer de nom, c'est pas important, mais la relation entre un entraîneur et un athlète, c'est extrêmement important. Hein? On est avec cet entraîneur-là comme 35-40 heures par semaine. Et j'avais la difficulté, tu sais, à être heureuse, à trouver le bonheur dans la pratique de mon sport. Puis, à un moment donné, j'ai eu à prendre des décisions, puis j'ai eu à réfléchir, puis j'ai eu aussi à travailler ma résilience. Il y a des choses que, des fois, tu ne peux pas changer dans la vie à un moment X. Tu dois les vivre, tu dois passer à travers. Puis, donc, je me rappelle, donc, en 93-94, là, c'était une période plus difficile.
Avant d'avoir remporté ta médaille.
Oui, parce qu'après, j'ai arrêté, hein. J'ai pris ma retraite tout de suite après. Fait que j'ai eu des doutes, tu sais. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à trouver mon bonheur là-dedans? Puis, finalement, le destin a fait en sorte que mon ancien entraîneur, celui que j'appréciais beaucoup, est revenu au coaching comme entraîneur. Il est revenu sur le bord d'une piscine. Puis, il m'a aidé la dernière année et demie de ma carrière à réaliser ce rêve olympique-là, finalement. Puis, dans le bonheur, surtout.
Est-ce que c'était ton premier entraîneur? C'était un monsieur Dion, si je me souviens bien.
Exactement, c'est Donald Dion.
Je me suis montré que j'ai fait des recherches.
T'es très bon. Ça avait été aussi l'entraîneur de Sylvie Bernier en 84. Okay. Alors, Donald a amené deux athlètes sur le podium olympique là, à 12 ans d'écart en 84 puis ensuite en 96. C'était pas mal un super bon coach.
Wow, super. Oui, tu as fait de la compétition en plongeon, mais tu as aussi fait de la télé. Tu as animé une émission à TVA qui s'appelait La vie est un sport dangereux. J'ai pas amené d'extrait, là.
Merci.
Tu voulais pas le revoir, là. J'ai pas fait d'extrait. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te tente pour le futur de faire de la télé, jouer des rôles? Non.
Je vais avoir 50 ans, là. Non, je suis plus là. Non, mon petit garçon. Oui, non, je sais, mais je n'ai pas de formation de comédienne. Est-ce que j'aimerais ça? C'est sûr que j'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça depuis que je suis jeune. Moi, mon rôle, mon plus grand rôle, c'est le rôle de mère. Puis en deuxième, c'est le rôle de clown, parce que je suis vraiment un clown avec mon gars. Puis avec lui, tu sais, dans la cuisine, je fais des rôles, je chante, je change ma voix, je fais des grimaces, je me déguise. Tu sais, ça passe encore, il trouve ça encore drôle. C'est sûr qu'adolescent, il va peut-être dire « Hey, tu es vraiment off, là, tu m'énerves. » Peut-être qu'il va dire ça. Là, il y a 4 ans et demi.
OK.
Ouais. Fait qu'il me reste peut-être un autre petit 10 ans à faire des foderies. Mais blague à part, non, l'animation, j'anime la majorité, presque l'entièreté des événements de la Fondation de l'athlète d'excellence. J'adore ça. Je me sens dans mon élément. C'est des communications. J'adore toujours être devant au micro. J'adore communiquer. Mais de faire ça à la télé aujourd'hui, je ne sais pas dans quel rôle je me verrais. J'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est très humain. J'aime ça donner... j'aime ça parler de l'être humain. Donc, je sais pas, si un jour je préfère une chronique... mais non, je cours pas après ça, honnêtement. La vie va tellement vite. Je suis tellement occupée que...
Ouais,
non, c'est pour l'instant, c'est ça. Puis je pense que ça va être ça encore longtemps.
Ben, c'est bien. Parce que
la radio, j'aurais aimé ça faire ça aussi.
Ouais, OK.
Ouais, appel à tous, hein. Non, mais la radio, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'en ai fait déjà, puis je trouvais que c'était encore plus facile pour moi de m'exprimer à la radio qu'à la télé. La télé, j'avais comme tout le temps la conscience là, de l'image, là, puis c'était lourd. Alors que la radio, tu sais, tu peux avoir tes feuilles, tu peux avoir tes graphiques, tu peux bien interpréter ta position ou ton opinion, puis ça, j'aimais bien ça.
C'est aussi plus spontané, tu sais, une discussion à la radio versus une discussion à la télévision où il y a plusieurs plans qui sont repris de telle chose, là, ça c'est certain.
C'est
là.
Sûr.
Parce que moi j'ai vu sur YouTube en préparant là, de quoi on allait parler, t'as fait, je pense c'était en 2018 ou en 2017 avec le gars des vues, la démineur qui était spécialiste.
Oui.
T'es vraiment bonne là-dedans, là, je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Mais tu sais,
t'es gentil, merci.
T'es quand même super bonne, là, tu sais, spontanée au bout, là, avec les gars, puis tout ça, là, parce qu'il y a le making of de tout ça, puis j'ai vu ça, mais en tout cas, je te lance des fleurs,
j'ai trouvé ça excellent.
J'ai une dernière petite question. Je sais que tu dois quitter bientôt aussi. T'es très occupé. Tu prépares un déménagement, donc je ne te retiens pas trop longtemps. On a Jean-Simon Malépart qui demande si la question, c'est es-tu avec nous autres aux Olympiques spéciaux? Je pense que c'est peut-être en lien avec la fondation, là, mais c'est la question de Jean-Simon.
Non, en fait, Olympique Spécial Québec existe depuis, je pense, maintenant plus d'une quarantaine d'années. Puis okay. Moi, je suis leur marraine. Je suis la marraine des athlètes spéciaux okay. qui vivent avec une déficience intellectuelle ou une intelligence différente, comme j'aime okay. le dire. Et je suis leur marraine. Ça fait plus de 20 ans que je suis là aux compétitions. Évidemment, tout a été arrêté hein, dans la dernière... quasiment la dernière année, c'est fou de dire ça, mais en tout cas, depuis le mois de mars, tout a été arrêté. Donc, mais oui, je suis encore là, je vais encore m'impliquer avec la déficience intellectuelle. C'est vraiment, je pourrais t'en parler pendant des heures parce qu'ils ont changé ma vie, puis ils ont sauvé ma vie aussi il y a quelques années quand ça allait très, très mal. Je me suis vraiment accrochée à ce rôle-là que j'avais avec eux. Je me suis vraiment sentie investie, valorisé, utile. Et je pense que, en terminant, si j'avais quelque chose à dire à quelqu'un qui passe vraiment un mauvais moment, beaucoup d'adversité, où la vie envoie beaucoup de balles courbes, comme on dit, ça serait de s'impliquer bénévolement, peu importe la cause. Évidemment, peut-être dans une cause qui vous touche particulièrement, si c'est avec les personnes âgées, avec la déficience, avec les enfants, avec... Il y a tellement de causes, il y a tellement de besoins de gens, il y a tellement de besoins, puis il y a tellement de gens dans le besoin. Mm-hmm. Moi, ça m'a fait vraiment du bien, puis ça a fait du bien aux autres. Puis regardez aujourd'hui, tu sais, 20 ans plus tard, je suis encore avec eux, puis je ne vais pas les lâcher, puis je les aime. C'est vraiment, ils me touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ben écoute, je te relance l'invitation pour en discuter parce que je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de besoins d'aide présentement aussi dans la situation qu'on vit, que ce soit des athlètes, mais aussi des personnes âgées, justement des personnes handicapées. Et il faut pas les laisser tomber, ces gens-là. Donc, je suis 100% d'accord avec toi, puis ça me ferait plaisir de te recevoir pour qu'on en rejase encore. Merci beaucoup, 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 beaucoup,
Annie. Ça me fait plaisir, c'est rien.
C'était vraiment le fun, puis je pense qu'on en aurait pris encore une heure, deux heures là, de notre discussion, mais merci d'avoir été là, puis j'apprécie vraiment beaucoup que tu aies pris le temps avec moi.
Ben merci, ça m'a fait plaisir, merci de l'invitation, puis ben bonne soirée tout le monde, puis ben on lâche pas, une journée à la fois.
Exact. Merci, beau message, merci Annie, bonne soirée.
Bye.
Bye bye. C'était Annie Pelletier. Je pense qu'elle n'a pas besoin de présentation. C'est ce qu'on a discuté avec elle. C'est une des personnes les plus gentilles à qui j'ai parlé sérieusement. Et on s'est pas parlé longtemps. Puis mais même en échange de courriels, de messages, tout ça, c'est une femme qui a un respect incroyable. Donc merci d'avoir pris le temps. Maintenant, je vous présente un petit court vidéo. Et ensuite de ça, on reçoit mes prochains invités. Donc, je vous présente ça. Ça sera pas long. Voilà. Et on y va comme ça.
Franchement, le public, c'est extraordinaire. C'est votre voix qui a fait la différence. Comment on pourrait être aussi comme...
Le diable à 5, les boys, comment ça va?
Ouais, ça va. Bien sûr.
Puis, des beaux c'est du beau, c'est rien que du beau, ça, là.
On s'en souvenait plus, justement, de ça.
Voyons donc, y a-tu la boisson qui s'est promenée ce soir-là?
On a vidé toute la Coors Light du marché.
C'était au marché public à Ripon, ça, les gars?
Ouais.
Yes. Hey, les boys, le diable à 5, écoutez, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous fêtiez comme ça, les boys? Vous avez remporté quelque chose. Vous êtes récipiendaire, dans le fond, de la bourse. Je vais vous laisser l'expliquer parce que je suis à chier, là. Mais je vais vous laisser l'expliquer. Mais vous avez gagné ça s'appelle ça encore un Félix?
Ben non, en fait, c'est un Félix, c'est pour les catégories. Nous, on était en nomination album traditionnel de l'année. Puis ça, c'est un concours qui était comme un peu indépendant, propulsé par TELUS, qui s'appelle « Ma première nomination », qui s'adressait à tous les premiers nominés à la disque cette année, comme nous, on était en première nomination. Ça veut dire qu'on était avec 26 autres artistes de tous genres différents, rap, alternatif, il y a plein de gros noms, là, de monde qui passe à radio, des vraies vedettes, mais...
À radio! Mais ça veut dire que, par exemple, pour être éligible à ce prix-là, il fallait que tu sois en nomination dans une autre catégorie pour la première fois, autrement dit.
C'est le premier nominé. Mais ça, d'après nous, c'est le plus beau prix parce que c'est la reconnaissance du public.
Ouais.
Public qui t'aime, c'est merveilleux. Fait qu'on a fait sortir, on a fait comme le Parti libéral, on a fait sortir le vote.
En soir d'élection américaine, là, tu peux pas dire mieux que ça. Non. C'est quoi le feeling, les boys, de gagner un prix comme ça? Comme, tu sais, c'est pan-québécois, là, je veux dire, c'est pas rien que... Oui, vous avez sûrement eu un méchant lot de votes de la gang de la Petite Nation, de la gang de l'Outaouais, mais je veux dire, vous avez fait des shows un peu partout dans les dernières années. Vous êtes les gars, vous autres même, vous êtes allés à l'université à Sherbrooke, donc vous avez fait des shows dans ce coin-là. Vous êtes connus partout au Québec. C'est quoi le feeling d'une reconnaissance comme ça, provinciale, autrement dit?
Ben, c'est sûr, c'est une bonne tape dans le dos, surtout après un été qui a été cancellé à cause de la COVID. Puis on avait vraiment un été de rêve, là, plein de festivals, puis tout. Regarde, on a passé à travers ça. Mais quand on a su qu'on était en nomination, juste être en nomination, ouais, en partant,
ouais,
ça a été le plus gros pincement au cœur qu'on a eu. Petit cul de ripon qui se ramasse en nomination à la disque parce que on est dans une catégorie musicale que, oui, certains gens vont mettre ça à des temps de l'année. Mais il y a beaucoup de places au Québec ou même des gens d'ici que c'est à l'année longue, le folklore, le trad.
Fucking puis, right.
se faire dire, hey, ben, Grim, les boys, en plus, vous êtes le choix du public.
Le folklore, t'as 26 artistes, c'est un band de folklore qui remporte, tu sais, il y avait du rap, du rock, tout ce que tu peux dire. Puis, comme Brun vient de dire, Ce que ça démontre, c'est que, regarde, c'est une musique qui va s'écouter à l'année. Là. C'était en 2001, la dernière fois qu'un album, c'était Cordial, La Bottine Souriante, qui avait remporté un autre prix
que celui
de... d'album traditionnel de l'année. Tu sais, par exemple, t'as Spectacle, t'as plein d'autres prix. Ça revient en 2001, fait quand même, je pense qu'on n'a pas réécrit l'histoire, mais de toute façon, on a laissé notre marque.
Ben, calique, ben, maison. Puis là, Brun, je t'ai entendu dire les petits gars de Ripon, mais écoute, là, je pense que Ripon commence à faire du Christy de bon divertissement, va te le dire. Là. Je pense que.
Un petit bout qui est rendu, qui passe à la Chambre des communes.
Oui, j'allais reçu.
Pour un livre sur Stéphane Richer, premier livre qui sort sur cet athlète-là, puis. Même autorisé
et
tout.
Wow. Moi, je tiens à dire que je l'ai reçu en entrevue avant la Chambre des communes.
Oh!
William est venu avec Karine en parler. Pour ceux qui se demandent là, qu'est-ce que Brun parle, c'est William Bollock qui a écrit la première. Ah, puis Karine est là, justement. Salut, Karine. Donc, cool. mais oui, c'est ça. William et Karine sont venus sur le show et en ont parlé. Puis c'est vraiment cool. C'est la première biographie autorisée par Stéphane Richer. Donc, c'est vraiment cool. Les boys, je reviens à vous autres. Ouais, vas-y, Brun, excuse.
Non, parce que William, c'est mon neveu. Karine, c'est ma sœur.
C'est notre petite cousine, notre petit cousin.
Exact. Ça reste dans la famille.
Tout est dans la famille. Fait que... Mais tu sais, les trucs qui sortent de Ripon, c'est généralement familial. Ça fait partie des mœurs de la gang de Ripon. Mais j'avais une question, mais j'ai comme perdu. je m'en allais dire, votre style musical, tu sais, comme par exemple le festival trad que vous avez parti avec, tu sais, que vous êtes sur le CA, j'imagine, avec la gang de la Tuque Bleue, puis à Ripon, puis tout ça, recevoir ce prix-là, c'est-tu comme un baume sur le fait que vous avez dû annuler ce festival-là cette année à cause de la COVID?
C'est sûr que ça a été comme, ben en fait, ça nous a vraiment fait chier, là.
Voilà,
c'est le bon mot.
Toute la gang, nous autres, là, si vous demandiez après la première édition, ouais, écoutez, il n'y aura pas l'année prochaine, on aurait été déçus, c'est un méchant temps. Puis là, ça s'est comme fait tranquillement, on a eu le temps de faire notre deuil, entre guillemets. Mais tu sais, même là, c'est dans l'incertitude pour l'an prochain. On commence même déjà à y penser, puis ça nous fait tellement de peine parce qu'on avait, tu sais, on a travaillé longtemps. Pas juste nous, là, c'est plein de monde super fantastique. Ouais. Puis l'événement a vraiment bien fonctionné, c'était bien monté. Tu sais, on avait une première édition qui,
C'est malade.
La peine, à partir de là, ça aurait juste été wow, puis non, écoutez, ça va être. Ben, une prochaine fois, c'est pas perdu, mais c'est sûr que nous, on est dans l'incertitude encore, tu sais, on sait jamais quand est-ce qu'il y a rien de sûr. Fait que oui, pour revenir à ta question, c'était quelque chose qui nous a apaisé avec toutes ces lots de mauvaises nouvelles pour le milieu culturel.
Avez-vous quand même des shows qui s'en viennent? Est-ce que vous êtes capable de faire un peu de spectacle, avoir des trucs virtuels un peu?
Ben, je viens d'en glisser un mot à Brun, mais on a un spectacle virtuel qui s'en vient. Là, t'es pas mal chanceux.
On l'a pas dit
à personne d'autre, mais on a un spectacle virtuel qui s'en vient. On était dans les dernières confirmations aujourd'hui. Je pense même qu'on a reçu les confirmations, le spectacle virtuel du Diable à 5. Qui serait au mois de décembre, le 12 décembre. Donc, ça serait un show entièrement en ligne. Puis, pour les détails, je pense que ça va suivre. Mais on vient de canner la chose là, aujourd'hui. Si
on me dit à l'oreille.
Ouais.
Êtes-vous, peut-être que vous allez recevoir des messages qui disent « Chris, fallait pas vous en parler. »
C'est quand même sûrement arrivé tantôt.
Quand on va finir, Éloi. Non, mais dans le fond, c'est un show qu'on planifie là. Toute la gang, on était tous vraiment d'accord avec ça que notre public, les gens qui nous suivent, ils méritent ça. Ils méritent qu'on leur fasse quelque chose là, qui va les faire sourire puis qui va leur faire rappeler aussi qu'on va rentrer dans une période, même si on l'oublie un peu, qui va être plus estivale, c'est le temps des fêtes et tout. Puis non, on ne veut pas nécessairement que notre musique soit associée au temps des fêtes, mais dans cette période qui va être un peu plus difficile, puisqu'on ne pourra pas la vivre en famille, etc., ben disons, le Job à 5, notre mandat, c'est comme d'habitude. Là. On casse la baraque, puis on vous met le party dans le cabane.
Ça te fait bien en virtuel aussi. T'sais, moi, si je peux vous proposer quelque chose, c'est d'offrir ça à des compagnies qui veulent faire un petit quelque chose avec leurs employés, par exemple. Ben, un show virtuel du Diable à 5, ça swing la baquette, puis le monde peut au moins avoir un genre de get-together rassemblement là, virtuellement, on s'entend. Mais il y a bien des compagnies qui sont habituées d'avoir des réunions, par-dessus réunions, utilisant cette technologie-là. Pourquoi pas l'utiliser pour avoir du fun, tu sais? Fait que... Mais les gars, votre show. Vas-y, excuse,
on va t'engager. Pas ça pour vous autres, OK?
Écoute, je suis plugué au gouvernement, moi, les gars. Fait que faites Mais d'ici là, par exemple, si vous avez besoin de quelqu'un pour aller vous présenter pour votre show virtuel, les gars, je peux faire ça pour vous autres gratos. Oh, ça va me faire plaisir. Fait que prenez ça en note. Hey, les boys, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, la disque, c'est quelque chose, tu sais, ça a été vu un peu partout à travers le Québec puis tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous autres, par exemple, du gala comme tel? L'avez-vous écouté le gala du dimanche avec Louis-José? Puis qu'est-ce que vous avez pensé de ça, là, tu sais, l'espèce de. Tu sais, de salle un peu pas remplie, là, on va se le dire.
C'est quel bout qu'on se rappelle déjà?
On a tout regardé le gala
du mercredi et lui du dimanche.
Les deux, en fait, pour ma part, le dimanche, tu sais, ça fait tellement différent puis pas normal parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais tu sais, Louis-José Hugues, on s'entend, là, c'est un king de l'humour. Puis,
c'est une joke.
Tu sais, on a l'impression que c'est un cabaret, de toutes les humoristes qui commencent, là, tu sais, là, puis là, ça rit un peu, pop, là, tu sais, bon, on est tous crampés chez nous tout seul.
Ils le voient pas, tu sais.
Ben, c'est ça, tu sais.
Non, même, tu sais, quand la pointe, et avec tout le gars-là, tous les artistes qui ont été joués, là, exemple, là.
Hey, t'as quoi?
Zéro, zéro, zéro.
T'as même pas un char qui klaxonne.
Non, c'est ça. C'est ça, au fait, le caméraman qui est là. Pas trop fort. Tu sais, je trouvais que c'était bizarre d'avoir vraiment une ambiance avec, comme, en background, une sourdine. C'était lui. Il y avait rien. Tu sais, c'était... Puis, si on s'en va vers ça jusqu'à quand, on le sait pas. Mais... Ouais. T'sais, ça reste, c'est triste, parce que quand on joue la musique, nous, on adore jouer la musique, mais aussi, tu fais ça pour ce thrill-là, d'entendre le monde participer avec toi, t'sais, d'avoir l'ambiance, puis là, en tout cas, je trouve qu'on fait un super beau travail, ça doit être difficile, ça doit être vraiment difficile pour eux autres, puis tu sais, c'est quand même une 2 heures quasiment d'émission que tu présente puis t'as zéro comeback là-dessus. Là, fait que non, c'est hot.
Vous autres, excuse, bro, je vais pas te couper. Vous autres, le saviez-vous d'avance que vous gagniez ce prix-là ou vous l'avez su comme paf?
On a su le lundi en équipe parce qu'en fait, tu nous avais dit que vous êtes dans les 5 finalistes. Fait que là. Okay. Là, évidemment, qu'on s'en est parlé. Hey, 5 finalistes. C'est un peu weird, mais là, il y en a qui ont poussé la chose un peu plus. Là, voyons, 5 finalistes. Ça se peut quasiment pas pour ce prix-là. Puis là, quand ils ont commencé à parler, ah bon, on va faire déplacer une équipe de tournage. L'équipe de tournage vont venir tourner pendant 3 heures. Là, on a fait comme, ils vont-tu déplacer une équipe de tournage partout pour les 5 personnes finalistes pendant 3 heures? Là, ça a fait comme un plus un, mais quand ils sont venus, on tordait un bras au caméraman.
Il y a mal à
l'air. Tu vas aller chez d'autres mondes? Moi, il disait, ben non, moi, je ne sais pas, je travaille pour... Fait que là, tu sais, il y a bête dans la game. Puis là, quand on est mis en caméra, webcam avec Roxane Bruno, puis là, j'ai regardé Éloi à côté. Éloi, il ne savait pas c'était qui, bizarrement. Non. Ben, je pense qu'on a gagné.
C'est malade, les gars. Je pense que vous avez créé un genre de phénomène parce que, tu sais, la tuque bleue a passé avant vous autres, c'est sûr, mais comme vous avez créé un phénomène à Ripon, puis aussi d'Antination, puis probablement partout ce que vous passez, mais c'est probablement plus fort à Ripon parce que, puis là, je dis Ripon, mais on s'entend toutes nous autres ensemble que c'est Ripon. Mais vous avez créé un genre de phénomène quasi boys band, si on veut. Le monde, ils vous suivent, ils vont voir vos shows. Moi, je pense à le petit Boisvin, le gars Rodrigue, là, qui vous suit partout. Il tripe sa musique folklorique. Puis il y en a d'autres comme ça. Vous avez comme créé un engouement que la Tuque Bleue avait fait dans le temps, mais je pense que c'est quasiment plus fort. Qu'est-ce que la Tuque Bleue avait fait?
On ne veut pas se comparer. On n'aime pas trop ça se comparer, mais ce qu'on peut dire, c'est que la Tuque Bleue nous a aidés en tabarouette. Si on en est là, c'est parce qu'ils nous ont précédés. Et puis, il y a aussi eu des groupes avant eux. C'est comme un passage de tradition.
C'est beau, hein? OK, mais cool.
Je pense qu'est-ce qui nous aide autre tout ça, c'est qu'on est 5 gars qui n'ont pas le langue dans leur poche, si ça me permet l'expression, puis qu'on s'implique quand même, tu sais. On est du monde, on n'a pas peur d'aller voir le monde, de sortir, des invités personnellement, tu sais. Notre public, il nous tient à cœur, je pense que ça paraît. Puis eux, leur façon d'être reconnaissant, c'est de nous avoir dans leur cœur aussi, tu sais, c'est du donnant-donnant.
On est dans un patelin, on s'entend qu'ils ont une petite communauté, là. Puis la meilleure manière que si tu veux que ça roule bien dans une communauté, ben, faut que tu t'impliques. Je pense qu'on essaie de le faire à notre manière, que ce soit pour l'école, que ce soit pour le marché, mettre l'ambiance en place. Si on peut le faire, ben, tu sais, ça nous fait plaisir. Puis, tu sais, dans le fond, on se rencontre, on se voit des fois, sinon à l'intermarché, ben, tu sais, tout le monde, on se connaît tout à fond.
Pour ceux qui nous écoutent à Montréal, un Intermarché, c'est comme un Provigo, OK? Hey, merci les boys, pour vrai. En terminant, vous allez me faire une petite toune vite faite, puis on finit là-dessus.
Une chanson café-là. Ouais.
Vous êtes cool, les boys.
Avec nos 3 voix de diable. Un petit tour de la montagne?
Non,
ouais. Ah ouais, vas-y. On fait 2-3 couplets, là.
OK. On va en faire une vite fait.
On va faire taporythmie. Tape de table au lieu de taper des pieds.
J'ai fait le tour de la montagne. J'ai fait le tour de la montagne.
J'ai fait le tour de la montagne. J'ai fait le tour de la montagne.
J'ai trouvé le chapeau de ma blonde.
J'ai trouvé le chapeau de ma blonde. J'ai trouvé le chapeau de ma blonde.
C'est pas le chapeau qui m'intéresse, c'est la petite tête qu'il y a dedans. C'est pas le chapeau qui m'intéresse, c'est la petite tête qu'il y a dedans.
C'est pas le chapeau qui m'intéresse, c'est la petite tête qu'il y a dedans. C'est pas le chapeau qui m'intéresse, c'est la petite tête qu'il y a dedans.
J'ai fait le tour de la montagne. J'ai fait le tour de la montagne.
J'ai fait le tour de la montagne, j'ai fait le tour de la montagne.
J'ai trouvé la brossière de ma blonde, j'ai trouvé la brossière
Yes, sir, les boys. Hey, merci, la gang. Hey, juste avant que vous quittiez, les gars, il y a un de mes prochains invités qui veut vous saluer. Fait que je l'amène sur le show, Dolino. Salut, mon chum.
Hey, on fait un mot quoi?
Ça va longtemps.
Ouais, mon gars, je vous ai reconnu. Vous avez changé la coupe des cheveux, puis tout, là.
Ah ouais?
Hey,
ça doit pas au moins 7-8 ans, ça, non?
Non, 5 ans.
6 ans.
Ah ouais, 6 ans, 6, 7, 8 ans, ouais, ça passe très vite. Merde.
En photo dans l'émission sur Facebook, c'est pas merveilleux, ça?
Ouais.
Comment?
Mais vous avez étudié ensemble, Dolino, tu me disais? Vous avez étudié à la même
école? On était à la même école. Moi, je joue au soccer et au volleyball.
Ah, ouais, exact.
J'ai une très bonne mémoire, là, je me rappelle.
J'étais pas sûr, mais c'est, Dolino, c'est ton nom d'artiste. C'était quoi ton...
Ouais. Oh putain, il se rappelle même pas de mon nom. Tu vois que là, les amitiés.
C'était Jean-Guy Moisan, tout le monde sait ça.
C'était ton gag parce que tu avais dit mon nom, c'est. Puis après, tu as dit, mais pour ceux qui me connaissent.
Ouais. C'est Dol. Dol Viron, Dol. Ouais, on m'appelait Dol, tout le monde, Dol à l'école. Mais c'est Dol Viron, ouais.
Comme les bananes. Les bananes d'Ol.
Tu veux faire l'humour, hein?
Il ne manquait pas les frères Sabourin au Bordel Comedy Club.
Mais Dolino, c'était pas un M dans ton nom de famille, là?
Pas si, ouais.
Ah si, c'est ça, exact. Ouais.
Ah ouais, mes gars, content de vous voir, mais je vous ai vu, ça a comme fait mon highlight.
Les gars, vous pourrez discuter ensemble sur Réseau Contact.
Oh ouais. Non, pas besoin.
C'est sûr, certain, quand que tout ça va être fini. Là.
On va être live sur Tinder.
Parfait.
Hey, salut, Diaba 5. Merci les boys, puis félicitations encore, les gars.
Salut,
les gars. Dolino, je te garde parce que, ben, Colin, je te présente. Dolino, Colin, Devin, on a participé au prochain stand-up, donc c'est sur nouveau, fait qu'on va en jaser un petit peu. Puis j'amène avec moi sur le show Lucas Boucher. Salut mon Lucas, comment ça va?
Salut Sam, salut Danilo, ben oui, ça va bien, vous autres?
Hey, tu sonnes comme si t'étais dans une cabine téléphonique, man.
Ah oui, ok. T'as
trop de poils.
Ah, c'est nouveau un peu. Hein? Ouais. C'est projet de confinement pour pas me casser d'un bord. C'est vraiment ça le projet.
Hey, les gars, pourquoi que je vous reçois? Ben, j'ai fait un spécial la semaine passée sur le prochain stand-up sur Nouveau. Puis Dolino, ça fonctionnait pas la semaine passée. Fait que j'ai dit, je m'en serais invité pour parler de ton expérience, mais... Je voulais aussi parler un peu de la situation présentement en humour, tu sais, pour les humoristes semi-relève ou qui s'établissent présentement. Tu sais, comment il faut trouver des nouvelles manières de faire des capsules web, créer des shows pendant l'été. Lucas, t'as créé un show en plein air, puis tout ça, avec des amis, puis tout ça. Fait que comment se réinventer, tout ça. Fait que je trouvais ça cool de vous recevoir les deux. Mais on va commencer avec toi, Dolino. Comment t'as aimé comment t'as aimé ça, participer au prochain stand-up à nouveau? Parce que là, t'étais en ronde numéro 2 la semaine passée. Donc, tu t'es rendu en ronde numéro 2. Je pense que là, t'as pas fait la ronde 3, mais l'expérience a été cool quand même.
J'ai décidé de partir là, parce qu'à un moment donné, on a des choses à faire. Hein? non, c'était vraiment cool pour elle. C'était vraiment cool. C'est une très, très belle expérience. J'ai aimé, tu sais, tu fais face à la pression puis la concurrence en même temps. Et la compétition en même temps, fait que, tu sais, le premier round, c'est différent parce que vous étiez deux sur scène en même temps.
Ah, là, c'était trois,
c'était bizarre. Deuxième, hein? Ouais, mais au moins, tu n'étais pas supposé d'être là parce que si tu ne performes pas, tu n'étais pas supposé d'être là. Mais tu pouvais, genre, tu devais être dans le backstage. Mais dans le premier round, tu devais être là sur scène pendant que l'autre performe et le regarder, voir tous les gens qui rient. T'es comme vos gueules ici, arrêtez de rire.
Même pas drôle.
Là, t'es comment, check l'autre qui applaudit. Espèce de traître. Là, tu juges. Moi, je m'amuse comme ça, je le monde. Mais c'était cool.
T'as-tu écouté le prochain stand-up un peu?
Ouais, j'ai écouté Sex Education. Mais c'est sûr que, ben là, on va en parler tantôt, mais vu que j'avais un show l'été, il y a beaucoup de résultats que je savais. Parce que le monde dans le milieu, il voulait jouer. Fait qu'il me disait, hey, Lucas, je passe en troisième ronde, je peux-tu venir jouer? J'ai comment? Ben, je passe en troisième ronde, c'est ça qui se passe. Mais ouais, ouais, j'ai écouté, mais je voyais un peu, ben, je connais un peu mal de tous les humoristes là-dedans, puis je voyais un peu le petit malaise, là, t'es comme, tu vois l'autre, c'est quelque chose qui est rare, c'est qu'on fait jamais ça, là. Regarder puis se battre pour les mêmes applaudissements, c'est vraiment quelque chose qui est unique à ça, puis qui est peut-être pas tant bon pour l'humour en général, mais c'est une expérience à vivre, j'imagine.
Ouais. Mais juste pour le fois, Lucas, qui t'a dit qu'il passerait la prochaine round? Comme ça, je vais les dénoncer parce qu'ils n'ont pas droit.
Je me sens de voir ça, tu sais, à cause de mon podcast, Lucas qui dit qu'il stoule quelqu'un, ils refont le show complet.
Je me rappelle bien, il y a quelqu'un qui son nom commence par Dolly, puis l'autre, il y a No. Non, ah non, c'est ça.
Non, mais lui, il n'a pas passé en troisième round. Ouais. Ça
pas être... J'avais dit à Lucas que je passe au troisième round, puis ma snitch.
Ah, c'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, par exemple? Tu sais, moi, je l'ai écouté, puis je l'écoute encore d'ailleurs. Puis, mais j'ai trouvé que des fois, les commentaires des juges, sans être comme un peu off, c'était pas tant... je trouvais que c'était pas constructif, puis des fois, je trouvais pas que c'était vrai. Tu sais, c'est comme si il y avait leur préféré un peu, puis ils continuaient là-dedans. Mais souvent, les commentaires, tu sais, j'ai entendu, tu sais, oh, t'avais l'air gêné, timide. Ben, fuck non, tu sais, ça fait combien de temps que ça me dépassait comme commentaire. Je me disais, ça se peut pas qu'il dise ça. Il y a vraiment plus de chaud derrière la cravate, le gars que tu viens d'entendre, que toi-même, tu sais, ou tu sais. Mm-hmm. Fait,
c'est un peu
rough, les commentaires.
Ouais, mais
vas-y.
Non, vas-y. Okay, ben, c'est sûr qu'eux, je pense que la plupart connaissaient 0-0 les humoristes. Fait que les autres, c'est même pas, ah, c'est un tel ou ah, c'est Delino, c'est juste, ah, c'est quelqu'un, tu sais. Ouais. Fait que peut-être qu'il y a ce recul-là qu'ils ont, ou qui connaissent pas l'historique, et ils voient juste 5 minutes, et nous, on connaît la personne, on connaît l'expérience et tout, mais si tu vois juste le 5-6 minutes, c'est peut-être là que devient un commentaire que nous, on est quand même bizarre parce qu'on les connaît. Ouais. Mais c'est peut-être là, mais...
Oui. En première ronde, tu sais, il y avait les commentaires sur, par exemple, j'ai entendu un commentaire, c'était Sam Cyr, tu sais, puis c'était genre, ben, tu sais, c'est la première fois qu'on te voit, t'es en première ronde, on s'attendait que tu nous parles un peu plus de, c'était pas Sam, c'était quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on s'attendait que tu nous parles un peu plus de toi, tu sais, mais Chris, tout le monde a parlé de autres, ouais. Même. Fait que tu sais, si t'es capable de te démarquer, me semble que c'est un point positif, mais eux autres l'amenaient comme des points négatifs. C'est ce que je trouvais un peu weird, là, mais... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Vas-y, Lucas.
Des commentaires. Non, mais des commentaires, qu'est-ce que t'en as pensé, là? Qu'ils t'ont donné ou qu'ils t'ont vu qu'ils ont donné aux autres?
Moi? OK. on doit absolument bien parler de l'émission parce qu'on a signé des contrats. Moi, j'ai aimé les commentaires des juges. Moi,
j'aime ça.
Regardez-moi, avant je n'articulais pas, grâce à Père Méthode là, j'articule.
Est-ce que toi t'articules mal ou c'est lui qui comprend rien?
C'est ma faute.
Ouais, c'est peut-être pas une bonne question à te poser d'abord.
Ouais, vas-y, mais... vas-y.
Bon, ben moi, je vais donner mes commentaires d'abord. Je n'ai pas signé de contrat. Ils m'ont pas pris à l'émission. Je te dis
Let's go, Lucas!
T'as-tu fait tes auditions?
Moi, j'avais essayé. J'ai envoyé un 2 minutes. Mais c'est sûr que, vu qu'il y avait beaucoup de monde, c'était un 2 minutes filmé chez toi ou filmé d'un extrait de show, ben 2 minutes, c'était pas beaucoup. Okay.
Lucas,
vas-y.
Si tu veux performer l'année prochaine, t'as juste à donner les noms de tous ceux qui t'ont dit qu'ils passent à la prochaine.
Ah, j'ai ça à la table. Vous voulez de l'argent pour que tu veux eux autres, mais prenez-moi dans le show. Fait que bon, ben, l'année prochaine, je vais être un candidat de l'émission. Fait que vous pouvez suivre ça sur les zones de niveau.
On va filmer tout de suite, tu vois.
C'est sûr et certain. Mais ouais, c'est ça. Puis, on dirait que vu que je connaissais des humoristes, c'est spécial, mais vu que j'ai vu beaucoup d'humoristes, je voyais le maquillage qui sortait beaucoup. C'est récemment, j'ai écouté Marilyn Jeanneau, puis j'étais comme, j'ai jamais vu te maquiller de même. J'étais comme, oh, je voyais tous les traits de maquillage de ce que ça a dû faire. C'est comme quand je les vois dans les parcs ou dans les bars. Il y avait ça qui m'avait sauté aux yeux. Puis, comme, tu sais, je me disais que je voyais des humoristes qui étaient super à l'aise dans les bars. Que, peut-être la télé ou peut-être le tournage, mais que j'ai sentais plus gêné. Juste
ouais,
mais... en télé, c'est même que je sais qu'ils ont beaucoup d'expérience, je les vois, puis peut-être tout, mais que j'ai trouvé qu'elle était un peu plus gênée à la télé. Ça flottait de même, je trouvais.
Mais tu sais, il faut faire attention parce qu'à la télé, il y a le montage, OK? Parce que normalement, vous voyez, il y a le fait de le temps qu'on voit à la maison, puis le temps qu'on fait sur scène, c'est pas la même chose. Tu vas voir à la télé, il y en a qui ont genre 5 minutes, d'autres en ont 3. Puis après, ouais, tu dois essayer de dealer avec ça. C'est différent. Fait que, dis-toi, si tu vois quelqu'un qui fait 3 minutes, dis-toi pas que non, il a juste fait 3 minutes parce qu'il avait juste ça comme stock, mais c'est parce que ça a été coupé beaucoup sur la production. Qu'est-ce qui a été coupé? Ça, on ne sait pas. C'est la production. Ça,
C'est poche un peu parce que ton numéro, il y a comme un rythme. Il y a, faut que ça soit vu en entièreté pour qu'on rende justice au numéro. On le sait, là, on fait de la scène. Je veux dire, un moment donné, oui, des fois, il y a des creux volontaires pour hyper un certain gag qui s'en vient. Fait que, je trouve ça un peu, il devrait mettre intégral les numéros. Là,
ouais, mais après, c'est sûr qu'ils essaient de bien faire paraître le monde, tout le monde, tu vois. C'était pas vraiment, mais après, c'est relatif, tu vois, parce que je sais pas qui fait le montage, mais après, c'est un truc que je peux pas toucher. Comme je dis, je peux pas trop parler non plus. Mais non, comme tel, en gros, c'était cool pour elle. C'était très professionnel lorsqu'on arrivait. T'avais l'impression d'avoir réussi, tu vois. T'arrives à faire le tournage. C'est vraiment cool. C'était le fun. C'est professionnel. C'est d'autres ambiances. Il y a d'autres stress, tu vois. Tu as le stress que tu dois performer devant une caméra et que si tu sais pas, mettons, tu as un blanc de mémoire, tu sais pas si ça va utiliser ou ça sera pas utilisé contre toi. Mais là, dans le cas que c'était positif, ils vont pas le mettre, tu vois. Il y a des bouts que même moi aussi, tu sais, qu'il y avait pas de rire. Mais il n'y avait pas des rires comme waouh, mais ils ont coupé ce bout-là, ça a été aussi avantageux pour moi à ce moment-là. Puis il y a des bouts que j'aurais voulu que ça soit là, puis que ça n'a pas été, c'était pas là. Et c'est comme ça, en fait.
Ouais, c'est la télé. Moi, je pense que c'est ça le médium de la télé qu'ils vont faire des cuts parce qu'il faut qu'ils rentrent dans 22 minutes ou je sais pas trop combien. Mais...
dans le narratif aussi. Ouais. Moi, je pense que, honnêtement, pour les gens qui sont à la maison, si vous regardez un truc, un artiste en ligne ou dans un gala, je pense qu'il ne faut jamais te faire une idée parce qu'il y a toujours le monde. Tu peux te faire une idée. Mais va vraiment le voir. Si tu as aimé, va le voir. Si tu as une doute, quand tu sais pas, si tu as un doute, va aussi le voir parce que ça peut vraiment te surprendre entre la réalité et la perception que tu as, ce que tu vois à la télé. Parce qu'à la télé, c'est jamais pareil qu'en live. Tu vois, il y a une énergie que tu peux pas retransmettre. Mais si tu as vraiment aimé ou tu as fait sourire juste un peu, comment je pense que ça vaut la peine d'aller voir cet artiste-là? En parlant de moi.
Spécialement de nous. Je rappelle aux gens, envoyez-nous des questions si vous en avez des commentaires, gênez-vous pas. Dolino, tu penses-tu que le fait d'y avoir participé cette année dans un temps de pandémie, c'est comme un coup d'épée dans l'eau au niveau de ton marketing personnel? Tu sais, je veux dire, oui, le monde t'en veut à la télévision, mais ils peuvent pas tout de suite aller acheter un billet pour te voir ou très peu parce qu'il y a très peu de show. Penses-tu que, tu sais, c'est un peu plate d'avoir participé à la première saison pour ça, alors qu'il va visiblement en avoir une deuxième saison, puis peut-être qu'il va y avoir plus de spectacles à ce moment-là?
En fait, oui, puis non, parce qu'à la base, moi, déjà, je suis très reconnaissant du fait qu'il y avait un public, parce que par moment, il y avait ces possibilités-là, cette hypothèse de jouer sans public, ça serait la pire affaire. Tu sais, on a vécu une expérience qu'il y avait un public, il y avait les retours, il y avait les rires, il y avait les juges. C'était cool comme tel, tu vois. Après, ça passe à la télé, c'est juste, compte tenu que là, on n'a rien à offrir au public parce que on n'a pas de spectacle. C'est ce moment-là qu'il faut vraiment se réinventer sur le net, aller sur le net, faire les vidéos, les garder, genre les entretenir jusqu'à ce que notre manager Lego ouvre les portes. Puis là, on va faire des shows.
On va y aller en Lyon et on va faire des shows partout.
Ouais, vraiment, vraiment.
On a un commentaire du public, PA Méthode, qui dit « Articule de Lino, s'il te plaît ». Donc, c'est pas vrai, c'est un fake, c'est moi qui l'ai écrit.
Mais ça me semble que c'est bon que PA Méthode, qu'ils le disent là, parce que clairement, moi aussi, j'ai les mêmes commentaires très souvent, là, fait que je vais prendre des commentaires.
Tu n'es pas prêt à passer à la télé, Lucas? Tu n'es pas prêt?
Il faut que je te donne
des cours de diction.
Moi, à toi?
Lucas,
non, moi à toi.
Ah, oui.
Lucas, son problème, c'est que le widescreen n'est même pas encore assez grand pour couvrir toute sa bouche.
Mais j'avais fait un concours là, il y a peut-être 2 ans. Puis j'avais fini 3e, puis en présentant le prix, un des jeux, j'avais dit le 3e, il avait articulé comme il faut, il aurait seulement, été, il aurait seulement gagné. Il est comme bouché. J'étais comme, ah non!
Ah non, c'est une plate. Hein.
Ah, j'aime. Fait que ça m'a donné. Fait que là, j'ai essayé de pratiquer les exercices, mais. Mais je me dis que c'est à cause de ma bouche. Et vu que j'ai une grande bouche, à guess, c'est plus difficile d'articuler comme du monde. Mais...
je pense pas.
Couper ta bouche, ça va être difficile.
Ouais, c'est. Je ne veux pas te décourager. Dolino, on s'est connu sur un spectacle en plein air à Papineauville, dans mon coin. C'était cool, on avait eu bien du fun. Lucas, où est-ce que je m'en vais avec ça? Tu as créé une soirée d'humour avec des chums en plein air. Ça se passait, je ne me trompe pas, à Montréal, c'est ça?
Oui, c'était au Parc Laurier, c'est sur le plateau. Comment... Montréal, mais c'était avec Cédric Gélina. Certains auditeurs vont le connaître, sinon à les découvrir.
C'est Gina qui est très connu là, sur mon podcast.
Ah ouais, c'est vraiment tous les fans de l'attente là, avec impatience. Mais il voulait faire des vidéos, puis on avait parlé un peu, mais on ne se connaissait pas beaucoup. C'est vraiment incroyable. Là, il m'a texté, il fait, ah ouais, tu voulais peut-être faire un show dans un parc. Ah, bonne idée. J'ai essayé une fois, il dit, ça va être un show, c'est pas grave. Puis là, on fait un, tu sais, peu importe qu'il arrive, puis on fait un show, on essaye d'aller chercher du monde dans le parc. Il y a un show à ce coin-là, venez. Finalement, il y a 35 personnes. On est comme, hey, super cool, ça fait un show, on capote. Puis on a invité du monde, puis le monde, genre, wow, ça fait 4 mois qu'on a fait de show, on adore ça. Puis on en fait un autre 2 semaines après, on met un événement sur Facebook. Puis là, ça a parti. C'est la seule fois que Facebook m'a aidé dans mes trucs, là. C'est la seule fois du monde que ça m'a aidé. Mais là, il y a la deuxième édition, il y a eu 200 personnes.
200 personnes, pour vrai?
La deuxième édition. Puis là, je parlais un peu, puis bouche à oreille, ça y allait, mais vu que c'est dans un parc, on avait aussi moins peur, parce que c'était vers début juillet, fait que c'était quand même le pic de monde avait quand même une peur d'aller dans des endroits clos, dans les parcs, comme ça, on peut se rester à une distance qu'on veut des autres. Fait qu'ils étaient chacun dans leur petite table de pique-nique, mais qui était découverte. Puis là, ça faisait une super belle, fait que là, on était juste adorés, puis après, on a tourné à 2 fois semaine tellement qu'il y avait de l'intérêt, puis du monde.
Ah ouais, OK.
Cool. Fait que ouais, c'était incroyable, puis on va faire ça l'année prochaine, c'est sûr, parce que c'était aussi, il y a des aiguillés, c'était du monde du quartier. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est cool. On a vu, tu sais, c'est un immeuble, puis on a vu ceux du deuxième, ils viennent, on a reconnu Ginette, on a reconnu dans Claude, ils sont là dans la foule, puis là, c'est fou, on a créé de quoi pour les voisins, puis après, pour le milieu aussi, il y a plein de monde qui ont aimé ça venir jouer, puis au moins de faire un show cet été. Là.
Ouais, j'ai pas détesté ça en plein air, pour vrai. Les gens arrivent avec leurs chaises, sont super relax. Nous autres, Delino, je ne sais pas si tu te souviens, à Papineauville, il faisait pas trop chaud ce soir-là. Là, on n'a pas été chanceux parce que la fin de soirée, on gelait. Là. Mais tu sais, le monde sont arrivés, ils se sont installés un peu n'importe où est-ce qu'ils voulaient. Ils se sont mis confortables avec leurs chaises et tout ça. Puis ils étaient tellement relax, le monde. Tu sais, tu arrives en plein air comme ça. Tu arrives dans une salle, OK, c'est comme go, 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 on s'assoit là. Tu sais, il faut que tu te prennes un spot. Puis,
là, c'était payant à Papineauville ou c'était comme festival un
non,
peu?
C'était gratuit pour. Puis tu sais, il n'y avait pas un gros budget pour les humoristes, mais c'est correct. Ça a permis à du monde de venir faire, d'avoir du stage time. Puis c'était bien correct aussi. Puis moi, je l'ai animé gratuitement. Puis ça me fait plaisir parce que c'est dans mon coin. Puis je suis bien content d'avoir des bons humoristes à présenter. Là. Pis, mais tu sais, c'était pas payant. C'est la municipalité qui organise ça en plein air. Puis eux autres, habituellement, c'est des chansonniers là, de musique. Puis là, c'était la première fois qu'ils faisaient un spectacle d'humour. Puis je pense que ça a vraiment pogné. Là. Pour vrai, le monde, là, ils ont trippé. Là, fait.
C'est le fait qu'ils viennent gratuit dehors. Comme tu as dit, c'est vraiment genre qu'ils sont plus relax. Après, tu n'as pas de stress. Là, comme, pourquoi tu stresserais? Eux, ils sont plus stressés. Puis ils viennent s'amuser. Fait, comme, ça vraiment, je trouve que ça aidait au stress des humoristes, mais de moi. Puis je pense des autres aussi. Là, comme, ils me demandaient, hey, sont-ils de même? Puis, comme, ils sont là, ils sont dehors. Ils viennent. Ouais. Ceux qui après, ils retournent dans un autre coin du parc, ils sont venus, ils apportent leur pique-nique, comme c'est juste très, très relax, là, c'était un des shows, comme les plus, même dans un bar, comme tu peux pas reproduire cette vibe-là de juste, on vient ici dans un parc, ça donne qu'on est juste tout proche d'un speaker puis un micro puis on t'écoute, là, mais c'est pas grave, là, fait que j'aimais ça la vibe quand même.
C'est quoi votre, allez-y un après l'autre, mais c'est quoi votre meilleur show là, depuis que vous faites ça, tu sais, je veux dire, Lucas, je te connais quand même depuis probablement tes débuts or so, là, tu sais, Dolino, on se connaît pas tant, mais tu sais, c'est quoi votre meilleur show que vous avez fait à date, là, depuis le début de votre carrière?
Ouf!
La question qui tue, je pensais pas vous, je pensais pas vous mettre dans un coin tant que ça.
Non, mais c'est ça, il y en a plusieurs, là. c'était trois choses.
Lucas, si tu voulais vraiment être têteux, tu pourrais dire que c'est quand tu as fait la première partie de ma première heure, mais en tout cas, je te lance la balle. prends autre chose. À part, par exemple, ça.
À part, ça, c'est une catégorie à part. Je ne sais pas si c'est en haut ou en bas, mais c'est à part. Alors, c'est super cool, mais si tu as trois choses, c'est sûr que c'est le fun. Tu dis, ah non, mon deuxième, c'était plus le fun. Mais tu les donnes quand même pas mal de shows, là. Peut-être encore plus de nous, commencer à marmon et tout, mais je sais pas, ben, mettons, je sais que, en fait, statistique, là, que je mets pas d'émotion sur la table. J'ai fait un show mané avec la ville de Chambly. Je travaillais dans la ville, à la ville. Puis j'animais, c'était absurde un peu, mais avant des artistes musicaux, il fallait qu'on les présente. Puis j'ai demandé à la ville, je vais te faire 3 minutes de blague, genre, super clean.
Ah ouais, ça
c'est ça. Vas-y. Et alors, j'animais Joe Bocan. qui est une vieille artiste québécoise.
Dalino, tu sais qui Joe Bocan?
Non, j'écoutais, je pensais que si tu parlais de Joe Guérin, j'étais comme vieux, Joe Guérin.
Joe Bocan, c'est plus âgé, puis comme, tu sais, moi, je la connaissais aucunement, puis mes parents connaissaient, mais genre, c'était déjà comme, ça fait longtemps.
C'était la première fois que
j'ai fait 3 minutes, devant 700 personnes qui venaient voir Joe Bocan, fait pas des vingtenaires, mettons. Il y a vraiment beaucoup de têtes blanches, mais beaucoup de monde. Puis j'ai fait, il y avait 700 personnes au total. C'était mon plus gros show, en fait.
700 personnes pour jouer au tabarouette. Je pensais pas qu'elle attirait encore autant les foules, Joe Bocan. C'est nice.
C'était mon plus gros show, mais c'était pas lui que j'ai eu le plus de fun. C'était pas tant ma corde, mais j'ai fait un show récemment, c'était dans un bar universitaire. C'était Côte des Neiges, là, le quartier à Montréal, puis c'était vraiment à côté des universités, là, tout le monde. J'ai parlé avec lui quand on disait, puis il a dit 75% du billet vendu, c'était sold out, c'est des filles de 21 à 24 ans. C'est exactement ma crowd, c'est des universitaires, puis pas nécessairement juste chercher des filles, mais dans mon âge, et là, parce que des filles, c'est comme, tout en général, c'est un des shows que, comme, je t'ai parlé comme eux, tu sais.
Ouais. Ça dit-tu quelque chose, le hashtag MeToo?
Just saying. Oui, mais c'est pas une chose dans la salle quand même.
J'étais aux échanges avec Lucas Boucher à la fin, mais je trouvais belle, puis il m'a mordu.
Mais ouais, c'est peut-être un des shows que j'ai le plus aimé, puis c'est récemment. Plus récemment, je suis plus confiant de moi, je suis plus confiant de ce que je fais, puis j'aime encore plus ça. Mais ouais, c'est un des shows que là, vu que c'était mon âge, chaque chose que je disais, chaque réflexe que j'avais ou des choses, des références d'âge de moi, tu sais, je parlais de moi, mais eux, ils pouvaient connecter super gros. Fait que c'est un des meilleurs
que j'ai fait. Le référent était crédible.
Là, on était là,
ouais, c'est ça. Dol, ton meilleur show?
Mais pour vrai, Lucas Boucher, ça fait juste en parler comme ça, Lucas, parce que c'est important que je le dise. C'est un des humoristes que j'ai vu qui a beaucoup progressé depuis qu'il est devenu entrepreneur en même temps. Il a commencé à animer des shows, animer des parcs. C'était genre les Gilbert Rozon des parcs cette année, sans casier judiciaire. Mais c'était...
Ben, pas encore, c'était... mais ça
s'en vient. Mais c'était pour vrai, il a beaucoup progressé. Puis je suis vraiment fier de toi, Lucas. Je te l'ai déjà dit en personne aussi. Oh, ouais. Bravo, puis exactement. Continue, mon gars.
C'est pas pour rien que je t'ai choisi pour ma première partie, Lucas. C'est pas pour rien.
C'est pas parce que t'étais dans ma ville non plus, hein?
Comment?
C'est pas parce que Jess, elle venait de ma ville non plus.
Jess? Ouais, on savait même pas rapport, ça. C'est sûr que ça facilitait le lift, là, on va se le dire. Là, mais...
Puis c'était gratuit.
Ouais, j'apprécie, mais oui, c'est juste une flèche parce que Jessica Chartrand, qui a fait un parti aussi, ben, on vient de la même ville, là, on vient de Chambly les deux. Fait que elle est carignan, mais c'est vraiment un village à côté. Fait que le dernier interstellation, on veut tourner, Jess est là. Je dis, ah, oui.
Mais c'est elle qui t'avait suggéré, en fait, mais moi, je t'aimais déjà, là, fait que ça, c'était correct.
C'était OK. Ouais. Hey, Simon, tu connais-tu le hashtag MeToo?
moi, je ressemble plus à Safia Nolin que Marie-Pierre Morin. Fait que je suis plus apte à être une victime de morsure. Que...
Ok, mais on les rôles. On va arrêter les rôles à Safia Nolin. Il y a pas d'autres rôles, là. Ça va.
Les jeux des rôles. moi, en fait, J'ai eu des gros highlights pour vrai dans ma jeune carrière. Je pense que à mes tout débuts, à un moment donné, il y avait c'était au cégep, c'était au Gala Méritas du cégep, je commençais à faire l'humour. Et souvent, moi, j'allais à la cafétéria à faire des blagues comme ça au café étudiant pendant que les gens mangeaient. Puis j'étais là, je prenais 30 minutes à faire des blagues, des trucs comme ça, à faire le clown un peu. Mais il y a des gens qui écoutaient. Et puis 2 ans plus tard, des gens qui me parlaient de mes blagues, tu vois. À un moment donné, il y avait le Gala Méritas de mon coach, il prenait sa retraite. Et là, j'ai fait comme un number sur lui de 7 minutes. Et là, je me rappelle, c'est au début, les gens étaient comme, qu'est-ce qu'il va faire le clown? Qu'est-ce qu'il va faire? Si, me voyait un peu comme un clown, mais là, j'avais vraiment l'attention. Je me rappelle quand j'ai fini, j'ai eu mon premier standing ovation.
Oh, nice.
C'était ma première, deuxième année, je pense, première ou deuxième année que je commençais à faire. Non, première année que je commençais à faire l'humour, je pense. Et après, il y avait aussi au Place des Arts, Wilfred Pelletier, oui, ça se fait-tu?
Wilfred Pelletier,
ouais. Ouais. Il y avait un show de Miss Afrique qui était là. Je faisais un numéro de 3 minutes et
Miss Afrique, genre la plus belle femme d'Afrique, là.
Ouais, Miss Afrique Montréal, mettons. Montréal. Montréal. Ouais.
J'aime comment t'es parti de là, puis t'as juste comme descendu.
Et moi, j'aime comment que tu m'as ramené à ce.
Et lui, il allait pour son meilleur show à vie, là. Dans sa tête, c'était haut, là. Là, tu l'as juste ramassé.
Ah, je m'excuse. Ouais, continue.
J'ai déjà fait un 4 minutes de truc. J'avais demandé à la base pour faire un numéro, mais il y avait déjà notre humoriste. Ils m'ont dit non, ça risque d'être compliqué. Mais il y avait une des participantes de Miss qui voulait faire. Il y avait la section talent show. Elle voulait faire un truc d'humour, on s'est vu, on a écrit un truc ensemble, on a fait genre 5 minutes. Et avant de finir les 5 minutes, je suis rendu à 2-3 minutes, j'avais un standing. J'ai fini le numéro sur un standing ovation. En fait, les gens étaient debout, puis ils applaudissaient. C'était un truc un peu engagé, un truc. J'étais debout, ils applaudissaient. Tu sais, les blacks, ils aiment être debout. C'était comme... Puis là, c'était vraiment un des highlights de ma carrière. Et aussi, honnêtement, il y a eu beaucoup de choses... il y a eu le truc de Abidjan, dans la Côte d'Ivoire, que j'étais grâce à Bocar Diouf. J'étais là, j'ai performé, première fois en Afrique. J'ai fait une excellente performance dont je pourrais jamais oublier, c'est sa vie. Il y a eu beaucoup de highlights comme ça que je peux pas oublier, en fait. Mais j'en ai quand même beaucoup.
Mais t'en as qui vont venir, parce que ce que j'ai vu sur ton site, c'est que t'étais sur une belle cédule de première partie en France aussi, si je me trompe pas, dans les
ouais,
qui s'en venaient là. Ouais, c'est ça. Est-ce que ces shows-là sont annulés ou c'est reporté? Parle-nous de ça.
La plupart des choses, c'est reporté. Il fallait que j'aille en Afrique encore pour une captation, mais ça n'a pas pu se donner à cause du COVID. Mais après, tu sais, c'est tout était comme à reporter. Un de mes highlights, je pense, c'est en France. Quand j'étais en France, tu sais, il y a comme des chichas. Des chichas, c'est comme des bars où est-ce que les gens fument de la chicha, mais souvent, c'est des thugs ou des gangsters un peu. Tu vois, ils sont en mode comme ils veulent pas trop. Et généralement, mon ami Samir Osman, qui m'avait comme booké le truc, j'arrive là-bas, j'ai dit, parce que tous les humoristes, beaucoup de humoristes n'aiment pas les jouer là-bas parce que tu te fais de l'argent, ils payent bien, mais c'est dans des conditions très difficiles parce que tu fais face à des gangsters, tu vois.
Ouais.
Et là, je me rappelle, j'étais comme, non, moi, je vais aller jouer là. T'es comme, ah, t'es sûr? Je fais, ouais, je vais aller jouer là. Je fais, c'est quoi, t'as besoin de ton manque d'argent? Je fais, oui, mais c'est pas ça le point. je veux vraiment aller jouer là. Et j'étais joué là pour la première fois pour eux. C'était vraiment une réussite. Genre, les gens riaient, il y avait des claps. C'était vraiment l'opposé de ce qu'on m'avait dit. Et après, on m'a référé dans un autre chicha aussi, puis ça s'est bien passé, mais j'ai juste pu en faire 2 parce que j'avais plus de temps là-bas aussi, j'avais d'autres trucs aussi, mais c'était vraiment, vraiment cool, ça m'a marqué.
Nice. Mais pour revenir aux premières parties que tu devais faire, est-ce que tu faisais la première partie de qui? Parce que je pense que tu faisais des premières parties assez, assez intéressantes, là.
Ouais, en fait, en France, comment ça fonctionne? Souvent, il y a des humoristes qui sont tournés, ils sont là, ils font des dates, et des fois, ils vont quand tu te connais, ils t'ont déjà côtoyé, ça peut arriver qu'ils t'invitent à faire sa première partie. Tu fais la première partie d'Alexandre Cominec, un gars vraiment hilarant, des Tania Dutel, si vous connaissez un peu.
Ouais,
mon Tania. J'en ai aussi fait de Samia Rossman, elle est vraiment incroyable, c'est elle qui m'a vraiment motivé à y aller, qui m'a aussi amené d'une certaine façon. On a fait des 30-30 en Belgique avec elle. Je connais plein d'artistes, vraiment plein d'humoristes que je connaissais pas. Et puis vraiment, c'était vraiment très enrichissant comme expérience.
Cool. Tania Dutel, d'ailleurs, c'est la seule, une des seules Françaises que Mike Ward accepte encore au Bordel Comedy Club, qui est pas à cause du l'espèce de scandale avec Gad Elmaleh, puis Clotaire, je sais plus quoi, là, je me souviens plus c'est quoi son nom, là, mais en tout cas, elle est vraiment bonne, Tania Dutel, je me souviens là, de l'avoir vue, là, ça accroche. Lucas, qu'est-ce qu'il s'est
venu? Il y en a plein qui acceptent, en fait.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, de la gang de Clotaire machin, là, qui était pas, qui était le booker, dans le fond, des
Kader Français. Aoum.
Kader Aoum, c'est ça ce que j'ai dit, Clotaire, mais Kader Aoum. Puis il disait, tu sais, le bordel disait que, bon, il acceptait pas les artistes qui venaient de Kader, là, en tout cas. Mais Tania Dutel, je me souviens d'avoir entendu qu'elle écrivait vraiment du bon stock, puis, tu sais. Mm-hmm.
Mais tu sais, moi-même, en Kader Aoum, je l'ai vu en France, je pense. Je jouais au Paname, c'est un peu lui qui boucle là-bas,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais.
Puis, je l'avais croisé, tu sais, je connais pas personnellement, mais il était très cool, il m'a salué, truc, ah oh, ouais, truc. Après, tu sais, je suis pas là pour juger ou pour ce qui est fait, c'est fait, ou je suis pas, tu sais, je sais pas, mais après, selon mon expérience, il a été comme très... mais c'est normal, il va pas faire ah oh, moi je suis arnaqueur, tu es canadien, tu fais chier. Il était très cool. Ouais. Puis après tout le monde était cool pour elle. Tout le monde,
je pense,
cool.
c'est plus les questions de plagiat qui font qui font monter Mike Ward puis le bordel au grand sur les grands chevaux là, mais c'est ça, parce que oui, mais le gars dire oui, moi je vais te voler ton stock, viens le faire sur la scène, puis moi je prends les notes, puis quelqu'un d'autre va le faire.
Tu sais, à un moment donné, j'ai joué dans un open mic en France, et dans la salle, ok, on me dit, dans la salle, il va avoir le trois quarts, je pense, c'est des humoristes. Et là, j'étais tellement stressé. Je me suis dit, oh, ça c'est pas une chose, on dirait une conférence des presse, tu vois, ils sont là avec les notes. Non, il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas ça. Mais dans ma tête, c'était vraiment, c'est ça qui allait arriver. Mais il n'y a eu rien de ça à date. Après, je suis parti, je ne sais pas. Mais ça peut arriver aussi que, tu sais, que différents deux ou trois humoristes ont comme la même idée. Souvent, quand ça arrive avec les faits, maintenant, tu sais, on parle du confinement. Confinement, ça peut arriver qu'il y aura des blagues qui vont se répéter. COVID, il y aura des blagues, des idées politiques. C'est parce que c'est des faits. Il y a des choses qui vont se répéter parce qu'on utilise même les mêmes procédés pas mal, tu vois. Fait que ça peut arriver qu'on a vraiment la même angle, le même truc, ça peut vraiment arriver, en fait.
Est-ce que vous écrivez un peu sur la COVID, le confinement, ou vous êtes comme moi puis vous avez l'impression que, tu sais, votre oncle sur Facebook les a toutes faites, les jokes de COVID, là?
Je me compare pas tant à mes oncles, au niveau humoristique. Mais ouais, je comprends le point, mais je dirais que j'essaie plus de... Je sais pas, non, moyen. J'essaie pas tant de... Mais surtout pas... parce que ça change tellement vite, là. Comme en mars, j'avais essayé... J'avais une idée, mais comme... j'ai essayé de le faire en juillet, là, quand j'avais les spectacles, ça marchait juste plus. C'était quelque chose d'actuel, là. Mais genre, c'est, mettons, sur une certaine restriction, mais là, qui était plus là, fait que ça marchait plus. Là, je peux pas faire... Ouais. Là, 6 mois, il y avait cette restriction-là, puis là, j'avais ça qui est arrivé. Fait que j'essaie de moins, mais... J'essaie de penser, c'est soit, mettons, moi, en confinement, que je réfléchis, ou ce qui arrive, genre, mettons, dans la vie, ou genre, tu sais, mais moins sur les restrictions, parce que je sais que ça peut changer. Puis j'essaie d'avoir des blagues les plus intemporelles possibles.
Ouais.
Fait que si je peux ne pas parler, mais tu sais, dire, mettons, en confinement, c'est ça que t'es arrivé, nanana, c'est oui, ça rend le stock actuel, le monde, il s'accroche, mais j'essaie de moins de juste faire, ah, ouais, sûr, ah, je suis contre les masques, nan, ou pour les masques, nanana. Nan. J'essaie de moins, c'est ça, là.
Mais c'est vrai, je comprends un peu, en même temps, moi, je pense que ce qu'on vit là, ça va nous marquer pour les 100 prochaines années minimum, en fait.
Ouais.
Il y a des gens, ceux qui, mettons, toi, dans ton cas, c'est les filles des 24 ans, 25 ans, tu peux l'utiliser jusqu'à ce qu'elles auront genre 50 ans, elles vont comprendre de quoi Lucas parle, tu vois.
Ah ouais, ouais.
Mais moi, oui, j'écris beaucoup. Pour vrai, je pense que je me suis ramassé à écrire des trucs, mais vraiment sur la situation actuelle, hors de la situation, parce que le contexte actuel m'a mis dans cette logique-là, analyser ce genre de trucs de cette façon-là. J'ai écrit, j'en ai profité, parce que c'est souvent, tu sais, les artistes, on doit vivre des choses pour pouvoir en développer et en parler, en écrire, tu vois. Mais là, on vit quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'en parler trop, mais on vit quelque chose, ce qui veut dire qu'on peut aussi en parler. Moi, ça m'a beaucoup inspiré puis a poussé à chercher d'autres angles dont j'ignorais, et je vois la vie un peu autrement, tu vois.
Ben, j'ai trouvé ça cool parce que toi, justement, en deuxième ronde du prochain stand-up, t'en as parlé, tu sais, t'as fait un numéro qui t'as écrit complètement ce numéro-là, si je ne me trompe pas.
Ouais, j'avais réagi. Oui, il y avait du stock que j'avais, mais parce que, tu sais, la première round, je trouve que les juges avaient dit que donc, ils ont mis un peu en doute ma plume, ma façon d'écrire, et je trouvais ça comme, je sais pas, je trouve que ceux qui me connaissent savent que j'écris énormément, et après, ils disent, je me suis limité aux accents, mais c'était pas juste des accents, tu sais, il y a des blagues derrière ces accents-là. C'est sûr que si tu veux t'arrêter, tu vas comme, oh, ces accents, je l'écoute pas, mais tu vas t'arrêter là. Mais si le public rit, puis il y a des claps, c'est parce qu'il y a une raison, tu vois. Et une fois.
On a payé un méthode qui dit.
Mais. Quoi, je ne pas si
il ne veut pas se couper. Mais il dit non, non, moi, je ne te couperai pas, mais mon alter ego payé un méthode va te couper.
Ouais. Ouais. Mais est-ce que je sais. J'articule pas assez ou. Soyez honnête.
Non,
on t'entend super bien, on te comprend super bien. Okay. Moi, ça a été un des commentaires que j'ai trouvé plate parce que il y a des humoristes qui n'ont pas d'accent, qu'on entend, qu'on comprenait moins que toi, quasiment, tu sais. Fait que je trouvais que c'était poche un peu. Là. C'est comme s'il n'avait pas trouvé mieux à te dire. Là. Fait que.
Mais il a dit deux fois. Ça veut dire que lui, ma voix puis ses oreilles sont pas compatibles.
C'est comme si tu viens de brancher une prise de iPhone dans un Samsung.
Shotgun le iPhone. mais ça se peut que tu sais des fois mon accent, j'ai un accent, j'en suis conscient et c'est vrai que des fois il y a des gens peut-être qui sont moins habitués et ils vont avoir un peu plus de misère parce que c'est aussi une question d'habitude, tu vois. Peut-être c'est la première fois qu'ils m'ont parlé ou la deuxième fois parce qu'on s'était vu au truc des photos, séance photo, mais ça se peut, ça se pourrait que oui, effectivement, je sais que j'ai un accent, je dois travailler sur ça, mais
t'as un accent, mais t'articules bien. T'articules probablement mieux que moi, tu sais. Mais c'est à cause de l'accent, je pense que peut-être que, comme tu dis, c'était plus difficile pour lui à comprendre. Donc, il perdait la rythmique, il perdait ton crescendo pour arriver à ton gag, tu sais, probablement. Mais non, je pense que tu t'articules super bien.
Lucas,
par exemple, articule mal en Christ.
Lucas, c'est pas l'articulation, c'est sa bouche.
C'est une grande bouche avec beaucoup trop de dents, mais qu'est-ce que
ouais.
Ok, j'ai des muscles super puissants, genre, faudrait des muscles de Superman juste pour comme, genre, jouer avec cette mâchoire-là.
Ça doit pas être long, là.
Mais c'est vrai, effectivement, ouais, c'est vrai que j'avais écrit pour la deuxième round, j'avais acheté des trucs, parce que je voulais vraiment comme qu'ils voient que j'ai travaillé. C'est pas juste que j'ai juste dit, ah ouais, deuxième round, puis je vais aller. Je voulais vraiment qu'ils voient ma plume dans ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. On avait juste 10 jours aussi.
Ah ouais, c'était 10 jours entre tes deux tournages?
Ouais.
Oh, OK, quand même. C'est pas, tu sais, tu peux pas dire, ouais, qu'est-ce que je ferais bien. C'est comme, t'écris, puis let's go.
Exact, t'écris. Même si, tu sais, la partie des épices, je l'avais déjà, j'ai travaillé un bout aussi. J'ai travaillé avec Julien Durden, Chudiac. Mais c'est comme, t'as pas beaucoup de temps, puis tu as une idée, tu veux aller là, et tu vois, en même temps, je voulais vraiment faire comme, OK, vous avez dit ça, les gens ont voté pour moi, les remercier, puis aller de là à faire d'autres trucs, tu vois.
Ouais. Parce que la première ronde, tu avais été sauvé par le public qui était là, qui était présent, là.
Ouais. C'est ouais, j'avais été sauvé par le public.
C'est une belle reconnaissance, tu sais, de ton numéro, là. Je veux dire, c'est du monde qui était là, c'est pas du monde qui t'ont entendu à télé, ils étaient là.
Ils étaient là, ouais. Physiquement, ouais. Pour vrai, ça, c'est. Je pense que dans ce genre de concours, ce serait bien des concours si c'est le public qui vote. Je pense que ce serait une très bonne idée parce que, tu sais, les juges, généralement, c'est des êtres humains, tu vois. Fait que moi, je pense qu'il faudrait peut-être. Pour d'autres émissions, je dis pas quoi faire là, mais une idée de concours avec des votes du public, ça pourrait être très, très bon. Très, très bon.
Ah, mais si tu veux ça, je pense que tu peux aller chanter puis faire la voix. Et ouais. bon, exactement ça. Là, c'est vraiment exactement ce que tu as dit.
Lucas, on ne peut pas se battre contre le Nouveau-Brunswick à la fois. On ne peut rien faire.
C'est toujours la même. Il y avait genre trois finalistes là, en finale du Nouveau-Brunswick. C'est ça, deux ou trois?
Non, c'était ben non, mais c'est parce que tu sais, mettons, le Star Academy, c'était Wilfred qui avait gagné, c'était un gars du Nouveau-Brunswick. La fille qui a gagné, c'est une fille du Nouveau-Brunswick aussi. En tout cas, whatever.
Mon référent était
à chier, je m'excuse.
Mais on n'a pas l'air de gagner, on y va pas. On va rester dans les blagues.
Moi, je vais m'inscrire pour la deuxième saison du prochain stand-up, puis comme ça, je vais pouvoir compétitionner contre toi, Lucas. Même si on sait que tu vas le gagner, là, parce que t'as quelque chose contre les. qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mon chum, Lucas? Tu travailles-tu sur des affaires? T'as-tu embrassé le rythme du virtuel un peu ou pas en tout?
J'ai fait un show sur Zoom la semaine passée, comme ça, mais il n'y avait pas personne dans le stream avec nous. C'était juste moi, juste ma grosse face dans le stream, c'était en YouTube direct.
T'as une grosse bouche?
Non. Si tu l'écoutais à la TV, t'avais peur, c'est sûr et certain. Mais j'avais oublié de demander le lien du show. Fait que le monde commentait en live sur YouTube, mais j'avais pas les commentaires. Fait que j'avais juste moi qui se pratique. C'était un peu bizarre, mais je vais essayer de soit partir un projet ou de. Mais j'essaie de continuer d'écrire, puis je me donne une rencontre à chaque semaine avec des collègues qui ont juste ça qui fait qu'est-ce qu'on a travaillé juste pour continuer de la machine un peu, mais c'est sûr qu'il y a moins de shows, il y a moins de. Je suis un peu en attente. C'est d'améliorer pareil dans l'attente, mais il n'y a pas tant de projets que je pourrais plugger où il n'y a pas grand-chose à faire.
C'est parce que tu peux écrire, mais tu ne peux pas comme le tester. C'est ça qui est plate en ce moment. Tu as beau vouloir t'améliorer, mais tu le présentes à qui? C'est ça qui est
non, mais tu présentes tes amis, puis c'est sûr que si avec 4-5 personnes, ils peuvent dire non, je ne teste pas, lui, genre, celle-là n'est pas bonne. Ils peuvent, mais c'est sûr que si tu es attaché, il y a toujours des moments que tu es comme j'aimerais ça le tester. Mais j'ai réussi quand même à créer des nouveaux numéros puis à m'améliorer dans mon écriture. Dans ces temps-là.
Cool.
C'est sûr que t'améliorer dans ton écriture pendant que t'as pas de feedback, c'est dur.
Ouais. Genre, tu fais des super beaux A et des super beaux D.
Ouais.
T'améliores la calligraphie. Mais j'ai pris du temps autant pour un confinement que là de juste organiser mes trucs pour, pour ne pas perdre des blagues, pour, c'est comme dans mes documents, dans mes blagues, dans mes notes, juste tout organiser pour que ce soit bien. Puis j'ai passé du temps à ça. C'est comme de la procrastination que je ne l'ai pas créée, mais j'étais comme l'organisé juste pour que tout soit bien et pas rien perdre. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est que tout le monde s'est arrivé de perdre des idées de blagues. Puis ouais. J'ai mis tout ça dans des drives. Je suis super content que j'ai rien qui perd. Si je perds mon sel, ça va. Genre. Tout est là. Fait que je suis vraiment content du travail que j'ai fait. Je veux me retrouver plus facilement dans mes blagues. Fait que c'est un travail que j'ai fait là, dans le confinement, mais que je trouve que c'est jamais perdu.
T'as combien de temps de stock à peu près d'écrit que tu as rodé moyen, mettons?
J'ai fait 4 fois en 30 minutes, puis là j'ai écrit du nouveau stock. Fait qu'un peu plus, mais je sais que je ne pourrais pas vraiment faire plus que 30. J'essaie juste de garder le meilleur 30.
Le meilleur,
j'essaie d'enlever les moins bonnes jokes pour que ma moins bonne joke soit meilleure.
Ouais. Ça, c'est comme Jess Chartrand faisait ça. Elle me disait, je disais, tu devrais venir, Jess, faire une heure. Non, je ne suis pas prête. Puis moi, je trouvais tellement que son stock était bon. Là, je me disais, go, lance-toi, tu sais, vas-y. Mais tu sais, elle garde vraiment le meilleur stock. Puis ses numéros sont rodés à la planche, tu sais. Fait que c'est deux méthodes. Là, moi, je vais tester des affaires, puis let's go.
Ah oui, c'est ça. Chacun ses affaires, mais je suis content de. Comme quand j'enlève des blagues, j'ai un petit sentiment de satisfaction de comment, je suis rendu au-dessus de cette blague-là. Je l'enlève. je continue comme ça, mais c'est vraiment dans mes textes. Je me fais du bon avec mes textes parce que j'ai plus de choix à faire.
Le gars s'amuse avec des phrases, coudonc.
Découpler. Les tueurs de blagues.
C'est ça.
J'ai écrit en ordre de couleur. Non, mais je fais pas ça, mais je fais du fun. Donne-nous toutes les choses qui s'en viennent dans des projets de.
Hey, c'est moi qui pose des questions, comme t'es nerveux.
C'est pas dans un parc, là, Boulouka.
C'est pas vrai. C'est un parc dans un appartement, je peux plus, genre.
Ouais.
La mafia, là, faut j'arrête. C'est pas du tout.
C'est la même question. Elle était excellente. Bravo, Lucas. Tu peux te partir un podcast. Puis poser des
questions. C'est la première
fois. Dans un parc.
Je vais y aller comme premier invité, puis je vais juste te blaster.
Ça ne viendra pas, c'est coché.
Une autre chose qui s'en vient, quelque chose?
Ah, moi, en fait, il y a ma fête est passée il y a 2 semaines. Moi, chaque année, je fais un show pour ma fête, je fais 1 heure. Et là, avec le confinement, pour vrai, j'avais vraiment quelque chose de très, très cool que j'avais à offrir au public. Ça allait être peut-être entre 45 minutes, 1 heure. Mais au début, je me disais en 30 minutes, 1 heure. Mais souvent, on a côté les 1 heure là, tu vois. Et à chaque année, je fais ça. Puis cette année, avec le confinement, avec du nouveau texte, matériel, les voyages que j'ai faits, j'avais vraiment, ouais, j'avais 1 heure là à offrir vraiment des très bons. Puis j'avais hâte de le faire parce que j'avais des numéros que je faisais vers la fin, avant le confinement, avant la deuxième vague, qui était vraiment hyper cool. Mais j'ai juste vraiment hâte de le faire devant le public, vraiment.
Cool. Ben, on a hâte de voir ça. Bon, chum, c'est cool. Hey, merci d'avoir pris le temps, les boys. C'était vraiment cool. Moi, tu sais, le début de show, c'était avec une médaillée olympique. Tu sais, il y avait le stress de pas avoir l'air d'un esti de cabochon.
Au moins, il y avait une casquette de sport. T'étais correct. Il y avait une casquette de sport.
Casquette de baseball. J'ai pas essayé de trouver une casquette de plongeon. Je n'ai pas trouvé. Ben, tu sais, t'as le stress de pas vouloir avoir l'air trop cave. Comme, tu sais, t'es un humoriste qui interview un athlète olympique.
C'est
tel que tel, mais tu essaies de faire de ton mieux. Fait que là, c'est comme si je relâchais mon fou avec vous autres, les gars, parce que la pression est partie.
En gros, vous n'êtes pas important, fait que.
Ah oui, exactement.
Non, c'est super important. C'est vous autres les plus importants. Vous êtes dans mon milieu, ah. Moi. C'est ça que. Tu sais, mais parce que je veux dire, le stress était parti. Fait que là, je pouvais m'amuser avec vous autres, les boys. Fait que merci d'être venu me jaser. C'était bien cool. Ah. Puis on se donne rendez-vous pour le podcast à Lucas. Puis le projet de.
Ouais. Merci de nous avoir invités, là. C'est super, le
podcast. Merci.
J'ai avec du monde, puis ça va être trop bien.
Merci, cool. La gang. Cool. Hey, à la prochaine, les boys.
À la prochaine.
Salut.
Bye bye.
Ciao, les amis. Donc, ce qui met fin au podcast, on devait avoir Vincent Ouellet des Trois Maisons pour parler de son livre, mais il va venir la semaine prochaine, possiblement. Donc, on va jaser avec lui la semaine prochaine. Un immense merci à Annie Pelletier et puis la gang du Diable à 5 qui était là avant Lucas et Delino. C'est vraiment cool de pouvoir jaser avec des amis humoristes aussi. Ça fait du bien, ce genre de podcast-là. C'est pour m'amuser, entre autres. Fait que j'aime ça recevoir, c'est sûr, des personnalités pour pouvoir vous les faire découvrir puis pouvoir que vous puissiez les voir puis tout ça. Mais tu sais, il n'y a rien comme de jaser avec ma gang, des gars que je vois plus souvent dans les loges puis là que je vois moins. Petit scoop pour mes invités de la semaine prochaine. Il y a des confirmations qui demeurent à être obtenues. Par contre, pour les personnes qui sont à l'écoute en ce moment, ça va être un très bon show. Je vous rappelle que Équipe Canada Junior qui a fait la liste des invités au camp d'entraînement. Et puis, on reçoit la semaine prochaine, nul autre que l'expert en ligue en hockey junior à RDS, Monsieur Stéphane Leroux. J'ai tellement hâte de le recevoir, j'ai tellement hâte de jaser de hockey avec ce gars-là. C'est le gars le plus connaissant de hockey junior au Québec. Donc, on le reçoit la semaine prochaine, ça va être vraiment cool. Préparez vos questions, on va avoir des questions pour lui. On va jaser de hockey junior, on va jaser du tournoi qui va avoir lieu à chaque... Qui a lieu à chaque année, tout ça. Donc, ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'y parler. Donc, Stéphane Leroux, je vais recevoir aussi mon chum, Marco Métivier. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. J'ai vraiment hâte d'y jaser, savoir qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là. Donc, on va recevoir je vais recevoir Marco Métivier aussi. Et on va faire un petit spécial podcast avec des amis humoristes qui ont des podcasts. Je vous surveillez ça cette semaine. Je vais annoncer ça, qui va être sur le show. Mais on va discuter un peu qu'est-ce qui fait un bon podcast, etc. Donc, autrement dit, je m'en vais chercher des trucs pour améliorer le show, grosso modo. Mais en tout cas, merci à tout le monde qui a été là. Merci à tout le monde qui a commenté, qui ont participé, qui ont partagé. Merci, c'est super apprécié. Fait que passez une belle soirée tout le monde, puis à la semaine prochaine. Ciao!